Europe 1.
Passez la meilleure journée possible, nous sommes le jeudi 4 avril.
Ma fille, voilà, elle s'habille à l'européenne, enfin, elle est, voilà, elle est pas voilée. Toute la journée, c'est des insultes, garbade, ça veut dire pute, elle est traitée de pute à longueur de journée, mais elle, c'était plus vivable en fait.
La colère de cette maman après la violente agression de sa fille Samara, tabassée, rouée de coups, jusqu'au coma devant les grilles de son collège. Selon sa mère, l'équipe enseignante savait ce qui se tramait. Son témoignage exclusif sur Europe 1 dans un instant. L'enquête sur la mort du petit Émile, dispositif allégé sur le plateau du Haut-Vernay, les investigations vont maintenant se poursuivre en laboratoire. Dans ce journal également, l'eau, elle a cessé de monter en Bourgogne. Pic atteint cette nuit autour de Chablis, mais la décrue, vous allez l'entendre, s'annonce très lente. Et puis, nous sommes à 113 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Visite guidée du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis, dont l'inauguration est prévue aujourd'hui par Emmanuel Macron.
Europe 1.
Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elle ne décolère pas contre l'équipe enseignante du collège Arthur Rimbaud de Montpellier, accusée d'avoir laissé faire. Contre les agresseurs qui se sont acharnés sur sa fille de 14 ans à la sortie des cours. La maman de Samara veut comprendre qu'est-ce qui a pu justifier une expédition punitive d'une telle violence. L'enquête devra démêler le vrai du faux. Trois mineurs sont en garde à vue depuis hier soir dans cette affaire. Charles Lhuillier, correspondant d'Europe 1 à Montpellier.
Elle a une amnésie partielle. Elle me demande de lui raconter ce qui s'est passé. On dirait une coquille vide.
À Siba, la mère de Samara ne reconnaît plus sa fille sur son lit d'hôpital. La conséquence d'un lynchage, d'une violence inouïe ce mardi. La principale mise en cause est une adolescente de 14 ans.
C'est cet élève qui a fait l'appel à se retrouver devant le collège, vers le groupe de jeunes hommes qui l'attendaient. Et à partir de là, ça a été un déferlement de coups. Il en bousille.
Juste avant ce passage à tabac, Samara a vécu un harcèlement quotidien au sein du collège.
Toute la journée, des insultes en arabe, karbad, voilà, ça veut dire pute, elle est traitée de pute à longueur de journée, mais elle, c'était plus vivable en fait.
Plus vivable, à tel point que la mère de famille avait prévenu le collège pour que des sanctions soient prises contre celle présentée comme la meneuse.
J'ai alerté, ils ont pris des sanctions, comme les deux jours d'exclusion, et en fait, au final, quand je vois jusqu'à où cet élève est allé, c'est trop faible.
Une élève placée en garde à vue hier soir, tout comme deux autres mineurs, de son côté, c'est aujourd'hui que Samara devrait être auditionnée. À Montpellier, Charles Lhuillier, Europe 1.
Et vous pourrez entendre le témoignage complet de la maman de Samara dans le journal de 8h. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, fait part de son émotion sur X. Et dans ce contexte, le Premier ministre Gabriel Attal organise une nouvelle réunion interministérielle aujourd'hui à Matignon autour de la sécurisation des établissements. 350 collèges et lycées sont concernés.
Toujours pas la moindre piste dans l'enquête sur la mort du petit Émile.
Les analyses scientifiques n'ont pas permis de privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. Une centaine de gendarmes restent mobilisés sur le hameau, mais c'est désormais en laboratoire qu'une partie de cette enquête va se jouer. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place.
Oui, sur place, le dispositif commence à être allégé. L'unité cynophile spécialisée dans la recherche de restes humains a quitté le hameau du Haut-Vernay. Désormais, l'espoir de connaître un jour la vérité repose en partie sur le travail des scientifiques. Après avoir pu formellement identifier le crâne du petit Émile, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale poursuivent à Pontoise leurs analyses. Ils ont déjà relevé des traces de petites fractures, fissures, morsures post-mortem qui ne sont donc pas à l'origine du décès de l'enfant puisque survenu après sa mort. Mais une étude approfondie des ossements est en cours. Les experts de l'IRCGN vont aussi essayer de faire parler les vêtements d'Émile découverts ces derniers jours. Le t-shirt, les chaussures et la culotte que l'on a retrouvés éparpillés près d'un ruisseau et dans une zone difficile d'accès à 150 mètres en contrebas du chemin où la promeneuse est tombée sur le crâne de l'enfant. Mardi, le procureur d'Aix-en-Provence a également indiqué que 11 signalements récents doivent être vérifiés. 1696 renseignements par mail, lettres ou appels téléphoniques ont été examinés depuis le début de l'affaire.
Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence.
En Bourgogne maintenant, le pic des inondations a été atteint cette nuit. Les habitants concernés ne sont malgré tout pas au bout de leur peine.
Le département de l'Yonne reste en alerte rouge aux crues. Le redoux annoncé et l'absence de pluie va offrir un peu de répit aux sinistrés. Il faudra du temps avant que la rivière d'Armançon ne regagne complètement son lit. Un cauchemar pour Véronique. Cette habitante de Chablis essaie de sauver ce qui peut encore l'être. Reportage Inès Zeglou, envoyé spécial d'Europe 1 dans Lyon.
Faites attention dans le garage, ça glisse, hein, parce qu'il y a encore de la boue, j'ai pas fini là.
Raclette en main, Véronique s'affaire.
Je racle l'eau qui reste pour l'emmener dans le trou d'égout. Il y en a quand même pas mal encore, hein. Vous avez vu la couleur? Vous en voulez un verre? C'est pas du chablis, hein.
En fait, l'eau, on peut pas l'arrêter, mais elle, quand elle s'en va, elle nous laisse ce qu'il faut pas, quoi.
C'est-à-dire cette boue épaisse abandonnée par la rivière sur son carrelage, et il y en a beaucoup.
On va avoir un mètre par là. À peu près 15 cm, hein.
Et le nettoyage, il est long?
Oui, il va être long et fatigant. Et quand on commence à vieillir, on pousse un peu. Parce qu'après, dehors, je vais peut-être passer un peu le karcher dehors quand même.
Alors, heureusement,
je suis pas toute seule. Hein. J'ai quand même un fils, une fille et un gendre qui sont tout de suite pour moi.
Face au cru, il faut de la solidarité?
Oui, oui, il vaut mieux. Tiens, je vais voir mon voisin en face tout à l'heure s'il a besoin.
Mais attention, la sexagénaire est prudente.
On attend.
Elle qui craint que l'eau monte à nouveau.
On va garder la raclette près de soi. Et je vous dis, je vais aller investir tout à l'heure dans un aspirateur à eau.
Je vais vous donner le balai après. Tiens, il est prêt là.
À Chablis, Inès Zegloul, Europe 1.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06.
Édouard Philippe, visé par une enquête du parquet national financier, l'ancien Premier ministre et maire du Havre est soupçonné de conflit d'intérêts.
Les bureaux de la mairie et de la communauté urbaine perquisitionnés, l'enquête s'intéresse à la mission confiée à une association chargée d'animer la cité numérique du Havre, lieu dédié à la création, l'accompagnement et l'hébergement de start-up notamment. Petit ou gros caillou dans la chaussure d'un possible candidat à la présidentielle 2027, ni l'un ni l'autre, Édouard Philippe continue de faire comme si, Arthur Delaborde.
Dans l'entourage d'Édouard Philippe, on ne se montre pas inquiet et on tente de minimiser les soupçons qui pèsent sur l'ancien Premier ministre. Certains de ses proches laissent entendre qu'un règlement de compte politique ou personnel pourrait être à l'origine de cette affaire. Le maire du Havre affiche lui-même sa sérénité. Il n'a pas été entendu dans ce dossier ni été mis en examen. Cette enquête préliminaire, qui n'en est qu'à ses débuts, ne constitue donc pas à ce stade un obstacle sur la route menant à la présidentielle de 2027. Cela fait plusieurs mois qu'Édouard Philippe se prépare à être candidat en sillonnant les territoires, en rencontrant des élus locaux et en misant sur une stratégie de discrétion médiatique. Voir son nom associé dans l'actualité à des soupçons de la justice n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour lui en termes d'image, surtout au moment où il doit mener un combat politique pour exister face au Premier ministre Gabriel Attal, un rival de plus en plus sérieux dans son camp, dans la course à l'Élysée.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Un délai supplémentaire pour la confirmation des vœux sur Parcoursup. Les candidats aux études supérieurs ont jusqu'à ce soir 22 heures pour le faire. Un bug technique a empêché les lycéens d'accéder à la plateforme hier soir.
Emmanuel Macron se jette à l'eau, pas encore dans la Seine, hein, mais du côté de Saint-Denis. Le chef de l'État va inaugurer aujourd'hui le centre aquatique olympique.
À 113 jours de la cérémonie d'ouverture, première inauguration du seul bâtiment construit spécifiquement pour les Jeux. Il accueillera les compétitions de water-polo, de plongeon et de natation. Il restera ensuite accessible pour le grand public après les JO. Visite guidée Martin Lange.
Dernière finition à quelques heures de l'inauguration, mais le centre aquatique olympique est prêt. Deux bassins, un de 50 mètres pour le water polo et la danse aquatique, un autre de 17 mètres surplombé par plusieurs plongeoirs. Guillaume Benoît, le guide du jour.
Les tremplins à 1 mètre ici, plateforme à 5 mètres, plateforme à 10 mètres, 7 mètres 50 et les tremplins à 3 mètres.
Au plafond, une centaine de poutres de 90 mètres de long servent de charpente pour un toit ondulé. Une sorte de vague ouverte sur la ville. Laure Mériot, l'une des architectes du projet.
C'était très important pour nous d'avoir un bâtiment qui donne envie de venir. On peut passer devant, mettre sa tête contre la vitre et se dire « Ouais, ça a l'air super, vas-y, je vais prendre un billet. »
Car après les Jeux, ce centre aquatique aura une seconde vie. Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris.
Dans l'héritage, il servira pour la natation, pour les familles, pour les enfants. Il y a un enfant sur deux qui rentre en sixième à Seine-Saint-Denis et qui ne sait pas nager. C'est très important dans la démarche qu'on a eue.
Un bassin d'apprentissage a donc été imaginé sous les tribunes. Le CAO ouvrira ses portes au grand public en juin 2025. Tarif d'entrée 5 euros pour un adulte, 3 euros pour un enfant.
Martin Lange, allez, un mot de football. PSG-Lyon, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France le 25 mai à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Attention, ce ne sera pas au Stade de France. Les Parisiens vainqueurs hier soir 1-0 de Rennes en demi-finale. But de Kylian Mbappé.
Et ils affronteront donc les Lyonnais en finale. Hein.
PSG-Lyon, oui, bien sûr.
Vous l'avez dit, pardonnez-moi, mais j'étais pas sûr d'avoir bien compris. C'est très clair désormais, grâce à vous. Merci, mon Christophe Lamar.
Merci, Dimitri.
Et bonne journée.
Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito éco.
Eh bien, nous allons parler de toutes ces rentes que le gouvernement pourrait finir par taxer. Les rentes. Mais alors, lesquelles? Paraît-il aussi qu'il existait une ligne rouge présidentielle interdisant d'augmenter les impôts. Semble-t-il, cette ligne a volé en éclats. Le regard de Nicolas Bouzou dans 10 minutes, juste après l'invité actuel d'Europe 1 Matin, le maire de Franconville, un maire en colère, Xavier Melki, est avec nous dans un instant.
7h, 9h.
Europe 1 matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maire de Franconville dans le Val d'Oise.
Bonjour Xavier Melki.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1, maire d'hiver droite de Franconville. Vous êtes aussi conseiller régional d'Île-de-France. Alors, parole d'élu de terrain ce matin avec vous, Xavier Melki, sur Europe 1. Témoignage aussi de ce qui pourrit le quotidien de millions de Français. Vous avez publié hier sur le réseau social X un message à propos de l'un de vos amis, de vos administrés. Je vais lire le message que vous avez écrit. 25 rapports de police municipale depuis 2023. Avant-hier, il a frappé un policier durant son interpellation alors qu'il conduisait sans permis, ivre et sous cannabis. Il a été laissé libre et sera convoqué un jour. Il vit toujours en logement social malgré ma demande d'expulsion. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce message, hein, Xavier Melki, mais c'est une sorte de concentré de votre vie de maire, Xavier Melki.
Ouais, c'est surtout, c'est pas le premier message que je fais comme ça, c'est que c'est infernal. C'est infernal, on n'est pas responsable de la sécurité, c'est l'État. On n'est pas responsable de la justice, c'est l'État. Et puis moi, j'en veux pas aux gens, les tribunaux, ils sont pas assez nombreux, les policiers sont pas assez nombreux. Mais quand on est confronté à des familles qui peuvent pas se loger, qui sont 5 dans un appartement parce qu'ils travaillent du matin au soir et qu'ils n'ont pas assez d'argent, et qu'on voit en face des personnes comme ça qui ne respectent rien, ouais, on peut s'interroger, ouais.
Il y a vraiment un sujet de tension aujourd'hui autour du logement social, de ces familles qui en disposent et qui pourrissent la vie de la collectivité. Et des familles, des gens viennent vous voir en vous disant « Mais pourquoi eux, ils ont un logement social, moi j'en aurais besoin et j'en ai pas, est-ce qu'ils le méritent ?» On vient vraiment vous solliciter
C'est tous les jours qu'on a des demandes de logements sociaux. Ouais. Moi, sur Franconville, on a 15 000 logements en tout. J'ai 2200 demandes de logement social. Donc, parfois justifiées, parfois non justifiées, parfois anciennes. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'inéquité dans le traitement et dans l'accès au logement social, évidemment. Alors, si la seule réponse est d'en construire plus, bah oui, c'est facile comme réponse, mais pour loger qui ?
Mais pour revenir à cette personne dont vous parlez dans votre message, c'est vrai que c'est quand même ahurissant, une situation d'impunité permanente totale. Il y a beaucoup de cas comme celui-ci chez vous.
J'en ai une quinzaine en tout, à peu près. Oui. Ben, c'est pas le pire, hein. J'en ai un. 56 rapports de police, agression aux forces de l'ordre, trafic de stupes, vol avec agression, vol de voiture, refus d'obtempérer, tapage.
Oui.
Voilà, j'en ai un autre, une famille qui a 16 rapports de police, violence en réunion, tentative de vol, dégradation, recel, rixe, violence.
Oui.
Ouais, il y en a, bien sûr, il y en a.
Alors, ça fait pas beaucoup, quand même, à l'échelle d'une commune, 15.
Non, c'est ça. Pas beaucoup. Ouais. Vous savez, dans un immeuble de 52 appartements, il suffit d'une ou deux personnes. Ouais. Qui se mettent à contrôler en bas, et puis ça pourrit toute la vie toute la vie du quartier.
Alors, vous dites, vous avez demandé l'expulsion de cette personne. J'imagine que pour les autres, vous avez systématisé un petit peu le procédé. L'expulsion du logement social, et ça n'aboutit pas ?
Alors, on a... en fait, on contraint le bailleur à respecter son bail. C'est-à-dire que dans le bail, il y a marqué que le locataire ne doit pas troubler la jouissance de ses voisins, des colocataires.
Oui.
Donc, nous, on lui dit, voilà, j'ai un certain nombre de rapports de police. Ces rapports de police municipales sont transmises au service de l'État. Rapprochez-vous entre avocats et puis organisez, posez sur le bureau du juge l'expulsion. Et puis l'année dernière, on a réussi à faire expulser comme ça 7 ou 8 familles. Voilà. Puis après la trêve hivernale,
donc ça fonctionne quand même.
Ça fonctionne. En fait, le problème, c'est de faire constituer le dossier. Donc moi, je contrains vraiment j'incite fortement, très fortement le bailleur à constituer le dossier.
Donc vous êtes le premier magistrat de votre commune, hein, quand vous êtes maire, mais vous êtes aussi huissier d'une certaine manière. Vous constituez comme ça des dossiers pour...
Non, les rapports de police municipale sont systématiquement transmis aux forces de l'ordre. Donc en fait, ils les ont. Et dans le Val d'Oise, il y a une convention qui existe entre le préfet, le bailleur et le procureur pour qu'il y ait une circulation de l'information qui soit plus fluide. Et fort de cette convention, moi je dis, écoutez, il y a de l'information qui est sur un des bureaux, occupez-vous-en.
Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a la question du logement social et vous nous avez dit, en fait, à quel point c'était aigu. Et c'est un sujet, effectivement, qui est particulièrement important en région Île-de-France, où il y a une très très forte demande. Alors, il paraît que d'ailleurs, à propos de logements sociaux, vous n'en construisez pas assez sur Franconville. Vous payez une amende, je crois, d'1 million d'euros par an.
On n'est pas 1 million. En fait, on paye une amende, mais comme on n'est pas une ville riche, on en est exonéré. Voyez-vous, donc ce qui m'arrange en soi, mais on n'est pas de mauvais élèves, on est à 21% de logements sociaux.
Oui.
On est à 21%, la ville est urbanisée sur 4...
C'est 25%.
C'est 25%, mais la ville est urbanisée sur 4 km², il en manque 750, je ne sais pas où les mettre.
Oui. Ah, vous ne savez pas où les mettre?
Je sais pas faire.
Donc c'est pas de la mauvaise volonté, hein?
Non, c'est pas de la mauvaise volonté. Et puis après, il y a la... Vous savez, en fait, le problème, c'est pas le logement social. C'est pas les 90% des familles qui sont dans le logement social. C'est comment le logement social est géré et comment on attribue une fois un logement social et il faut réussir à le désattribuer.
Oui.
On va pas garder un logement à vie quand la seule source de revenus, c'est le trafic.
Mais
c'est
vous,
pas possible.
Vous considérez, vous, en tant que maire qui expérimentez ces choses-là, vous n'avez pas directement la main sur le logement social, vous l'avez dit, il y a des bailleurs. Mais vous remettez en question les critères d'attribution des logements sociaux ?
Ah oui, complètement. Oui. Et tout est mis en place pour que les maires soient dessaisis peu à peu, chaque jour un peu plus, de leur capacité d'attribution. Oui. Après, c'est très technique. On avait une gestion en stock, on passe sur une gestion en flux. Oui. C'est-à-dire que là où j'avais 200 logements, demain, j'en aurais plus qu'un attribué.
Mais comment on fait le tri entre les urgences parce que le logement social, toutes les situations sont urgentes.
Toutes les situations sont urgentes, c'est sûr. Quand on a la chance de pouvoir bénéficier d'un logement, je crois que l'année dernière, j'ai eu, à l'échelle de la ville, un seul F5 dans l'escarcelle de la commune à proposer à une famille. Et quand vous avez un nombre de familles comme ça, donc on a notre service logement qui propose des dossiers, il faut que le dossier soit complet, et puis après, au final, au bout du bout, c'est le bailleur social qui choisit.
Il y a le logement social, et puis on a vu, il y a aussi la question de la délinquance, la question de la sécurité. Vous avez reçu des menaces, vous d'ailleurs, l'année dernière. Bon, on vous reprochait sur un banc de ne pas avoir rénové le City Stade. Mais oui, les gens qui disent ça menacent tout de suite la vie de votre famille.
En fait, aujourd'hui, les maires, alors moi, comme d'autres, en fait, il suffit qu'on essaye de remettre un peu l'autorité en place, on est tout de suite sujet à des menaces. Les profs, les policiers, les maires, tout ce qui représente finalement un peu l'autorité aujourd'hui. Donc ouais, beaucoup de maires en ont marre. Je crois qu'à la moitié du mandat 2020-2026, il y avait plus de démissions que sur l'ensemble du mandat précédent.
Et alors autour de vous, après les émeutes, ça a été particulièrement dur chez vous aussi à Franconville, comme dans toute la région Île-de-France et comme dans beaucoup de villes en France. Il y a un avant, il y a un après avec vos collègues maires, vous en parlez de cette situation?
Non, on a mis la poussière sous le tapis.
Ouais.
Ça avance, ça continue, on n'en parle plus, tout va bien, Madame la Marquise.
Oui. Voilà. On vous sent un peu désabusé, Xavier Melki.
Pas désabusé, on n'est plus dans de la colère, on est au-dessus en fait. On tient parce que les élus locaux, si on lâche, il y a tout qui tombe en fait. On est encore le dernier lien où les gens ont confiance en nous. Et puis, on fait pas ça. Moi, je fais pas ça je me suis pas levé un matin en disant tiens, on va essayer de faire expulser quelqu'un de son logement. On a des milliers de familles qui n'arrivent pas à se loger. Et aujourd'hui, si nous, on pousse pas un peu, il se passe rien. Les polices municipales, la police, c'est l'État. Les villes ont créé une police municipale. La justice, c'est l'État. On a l'État qui est défaillant sur un grand nombre de ses compétences.
La police municipale, ça devait être la police en plus. Et en fait,
c'est la police à la place. Et heureusement qu'on les a. Et on travaille, moi, mes agents travaillent très très bien avec les policiers nationaux. C'est des partenaires, ils sont quasiment d'égal à égal.
Merci Xavier Melki de votre témoignage,
venu
ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le maire d'hiver droite de Franconville, dans le Val d'Oise. Merci à vous, bonne journée.
Il est 7h20, l'édito éco sur Europe 1. 7h-9h, Europe 1 matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
On parlait des policiers. Pour payer les policiers, il faut des impôts. Il paraît qu'il existe une ligne rouge présidentielle qui interdisait justement toute hausse d'impôts. Le Premier ministre a pourtant chargé un groupe de parlementaires de la majorité de réfléchir d'ici le mois de juin à une taxation des rentes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que le gouvernement essaie d'inventer une histoire pour augmenter les impôts, sans le dire, pour être tout à fait franc. Le terme de rente est péjoratif. Et comme personne ne veut s'attaquer à la réforme de la sphère publique pour faire des économies durables et pour réduire le déficit, on invente une notion de rente. Personne n'aime la rente, a priori, donc il serait logique de la taxer. Alors, maintenant, si on regarde les choses un peu concrètement, de quoi s'agit-il ? Si vous prenez le dictionnaire, une rente, c'est un revenu régulier attaché à une propriété ou à une épargne. Donc, ça peut être, par exemple, les intérêts d'un livret A. Ce sont des intérêts fixes. Ça peut être les loyers d'un revenu locatif aussi. Au sens très large, ça peut même être des dividendes. Alors, les dividendes sont des revenus variables, mais enfin, ils sont attachés à la propriété d'une action. Alors, a priori, ce sera pas ça, puisque le Premier ministre a indiqué hier à l'Assemblée nationale que le gouvernement, je le cite, ne prendrait rien aux Français qui travaillent. Du coup, est-ce que le gouvernement considère que la retraite est une rente ? Bon, j'en sais rien, je ne pense pas. Ce qui est certain, c'est que c'est un langage anxiogène et, vous le rappeliez Dimitri, parfaitement contradictoire avec les engagements du président de la République et du ministre de l'économie, engagement de ne pas augmenter les impôts.
Oui, c'est ce qu'il disait hier dans le journal Les Échos, Bruno Le Maire martelant son refus d'augmenter la fiscalité.
Il va même plus loin en fait, il fustige ceux qui en parlent, à juste titre d'ailleurs, à mon sens, je le cite, j'ouvre les guillemets, taxe exceptionnelle, surtaxe, taxe temporaire ou taxe de rendement, tout le champ lexical de la taxe y passe sous couvert de justice, fermez les guillemets. Alors là, en fait, il évoque les politiques et les économistes qui parlent en permanence de l'augmentation des impôts. Plus loin dans l'article, il nous gratifie d'une excellente formule, je rouvre les guillemets, « Ouvrir le débat facile des impôts, c'est refermer le débat difficile de la réduction des dépenses publiques. » Fermez les guillemets. En fait, ça semble presque être une adresse à ceux de sa majorité qui, en effet, ne peuvent pas s'empêcher de ramener sans cesse ce sujet des impôts sur la table.
Alors voilà, vous avez évoqué quelques-unes des pistes que le gouvernement n'empruntera pas, le livret A, etc., par exemple. Mais alors, ça pourrait être taxé quelle rente ? De quoi on parle ?
Alors, on parle d'une surtaxe sur les énergéticiens, sur les autoroutes, sur les laboratoires pharmaceutiques. Alors, très honnêtement, je ne savais pas que les laboratoires pharmaceutiques étaient des rentiers. En fait, c'est même très exactement l'inverse. Je vous donne un chiffre. Quand un laboratoire pharmaceutique fait de la recherche et développement, sur 10 000 molécules étudiées, vous en avez une seule qui deviendra un médicament. Le taux d'échec de la recherche des labos pharmaceutiques est donc de 9 999 sur 10 000. Je pense pas que ce soit des rentiers. Bon, il faut arrêter avec les idées anxiogènes qui sont mauvaises pour notre attractivité et des termes comme rente qui ne veulent rien dire et qui affolent tout le monde.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.
Merci.
Europe 1.
Ce matin sur Europe 1 et comme tous les jours, Thomas Hill reçoit dans Culture Média et en l'occurrence là, ce jour-ci, ce sera l'un des auteurs de thrillers les plus lus en France.
Oui, Bernard Minier est de retour. Ça y est, les lecteurs sont contents. Il est de retour avec Les Effacés. 2 ans après Lucia, Bernard Minier retrouve son enquêtrice espagnole. Alors pour en savoir plus sur ce nouveau roman très attendu, rendez-vous dans Culture Média tout à l'heure avec Thomas Hill de 9h30 à 11h sur Europe 1.
Bon réveil avec Europe 1, 7h23. L'essentiel de l'actualité, le journal permanent, Christophe Lamarre.
Le pic des inondations atteint cette nuit en Bourgogne, mais le département de l'Yonne est toujours en alerte rouge. Vigilance orange pour les 2 départements voisins, l'Aube et la Côte d'Or. Un délai supplémentaire pour la confirmation des vœux sur Parcoursup. Les lycéens ont jusque 22h ce soir pour le faire. Un bug technique a bloqué l'accès à la plateforme hier soir. Le football, PSG-Lyon, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France le 25 mai à Villeneuve-d'Ascq. Les Parisiens vainqueurs hier soir 1-0 de Rennes en demi-finale.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge-Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. L'espoir.
Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Ce jeudi 4 avril, Marguerite Duras aurait eu 110 ans. Marguerite Duras, née en 1914, on garde d'elle le souvenir d'une figure littéraire incontournable du XXe siècle lors d'Autriche grâce à des œuvres comme L'Amant ou Un barrage contre le Pacifique.
Oui, on a cette photo d'elle en tête, Marguerite Duras et ses lunettes écaillées, une cigarette entre les doigts. Elle parle d'une façon unique dans ses livres de la passion amoureuse, du cœur, de la souffrance. Elle s'attache aussi à la musicalité des mots. Son plus gros succès, c'est L'Amant, roman tiré de son histoire à 15 ans en Indochine avec un riche chinois, avec qui elle va vivre dans le luxe et sortir de l'adolescence. Elle en parle dans les années 80 sur Europe 1.
Avoir 15 ans, être misérable, comme je l'étais, comme ma famille l'était, et avoir cet amant chinois multimillionnaire, ça m'impressionnait beaucoup.
Duras va vendre 100 000 exemplaires de L'Amant en un mois. Au fil des livres, son écriture minimaliste s'affirme et à sa mort en 1996, le public salue un style unique.
Ça fait partie des 2-3 écrivains les plus importants du siècle, de l'après-guerre en tout cas. Il y a Beckett, il y a Duras, qui d'autre ?
Duras signe aussi en 1959 le scénario d'Hiroshima, mon amour, film d'Alain Resnais.
Comme toi, je suis doué de mémoire. Je connais l'oubli.
Marguerite Duras buvait beaucoup, de jour comme de nuit. Elle disait elle-même que sans l'alcool, elle n'aurait jamais pu écrire, ni aimer, ni continuer à vivre. Interview en 1984 sur Europe 1, au micro de Jean-Pierre Elkabbach.
C'est magnifique l'alcool, parce que on va vers la mort et on ne souffre pas.
Mais l'écriture, ça n'aide pas à survivre, à résister.
J'ai toujours écrit.
En buvant.
Oui, et avec beaucoup, beaucoup de vin. Une quantité incroyable.
Et politiquement, Duras a été communiste à la Libération, mais 40 ans plus tard, Marguerite Duras estimait sur Europe 1 s'être trompée.
Je pense que je suis aussi coupable d'avoir collaboré au stalinisme que les collaborateurs pendant la guerre. Beaucoup de gens autour de moi qui ont fait partie du Parti communiste disent « nous ne savions pas ce que c'était ». Moi je dis que si je ne savais pas, j'aurais dû savoir, j'aurais dû m'informer.
Duras savait qu'elle resterait dans la postérité, mais elle disait sur Europe 1 en 1987 « Ça ne me fait rien, jamais on écrit pour être connu, c'est pour raconter quelque chose à quelqu'un ».
Merci Lord d'Autriche, il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin. Et toute cette semaine, Europe 1 vous offre vos prochaines vacances en famille pour 4 personnes, pension complète dans l'une des 100 destinations VVF dans les plus belles régions de France. Alors les villages vacances VVF, hein, si vous ne les connaissez pas, ce sont des résidences ou des campings, tous à taille humaine avec la nature comme décor, c'est magnifique. Vous allez pouvoir choisir la région de votre choix au programme du sport, de belles rencontres. Il y aura aussi des clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans et des activités à faire en famille. Vous pouvez déjà découvrir vos futures vacances sur le www.vvf.fr.
Voici la question du jour. De quel film d'Alain René Marguerite Duras signa-t-elle le scénario? Était-ce Hiroshima mon amour ou bien Providence?
Pour tenter votre chance, ce matin vous envoyez vacances au pluriel. Bah oui, vous partez à 4. Vacances au pluriel au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Le tirage au sort aura lieu demain. Bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h10, Carl Olive sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le député Renaissance des Yvelines, on pourra parler avec lui des éventuelles hausses d'impôts qui divisent la majorité. La menace d'une motion de censure des Républicains tient aussi, ça inquiète beaucoup le gouvernement. Et aussi de ce décret qui prévoit d'alléger les sanctions disciplinaires en prison. Tu casses, mais tu répares pas. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
À la une, ce chiffre effarant, 140 000 véhicules volés l'an dernier en France. Et cette info Europe 1 que nous vous dévoilons, selon l'Observatoire des vols coyotes, 2 voitures sur 3 ne sont pas retrouvées. On va en parler. Un bus avec une cinquantaine de passagers à bord, pris d'assaut par une bande, bus incendié. Ça s'est passé mardi soir à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Heureusement, pas de victimes. Reportage Europe 1 à suivre. La réforme de l'assurance chômage. Faut-il privilégier le sur-mesure, quel que soit le parcours professionnel des salariés? Une mesure de réduction de la durée de l'indemnisation, c'est la piste suivie par le gouvernement, jugée par injuste par une majorité de Français. On va en parler. Et puis, les éoliennes, elles gâchent le paysage pour beaucoup d'entre vous. Et bien, pour la première fois, la justice a donné raison à des propriétaires qui se disent lésés. Décision qui pourrait faire jurisprudence. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une voiture volée toutes les 4 minutes en France. Vous êtes 140 000 à en avoir été victime l'an dernier. C'est 5% de plus sur un an. Et même si les voitures sont de plus en plus connectées et sécurisées, il est quasiment impossible d'empêcher un vol. C'est une information qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Selon l'entreprise Coyote, sans solution anti-vol, 2 voitures volées sur 3 ne sont jamais retrouvées. Un phénomène qui prend tellement d'ampleur que Coyote, justement, a désormais ses propres détectives pour tenter de récupérer les voitures de ses clients. Aurélien Fleureau a testé pour Europe 1 ce tout nouveau dispositif.
Tout commence à partir du dépôt de plainte. Si vous faites partie des 400 000 clients de Coyote Secure, votre voiture est équipée d'un traceur. Impossible à détecter, vous ne saurez ni à quoi il ressemble, ni où il a été placé.
On a été contacté pour un nouveau dossier de vol, un véhicule Audi Q3 gris. Le numéro du boîtier associé est le 209-128.
Et c'est maintenant que Patrick peut activer le traceur. Cela permet de définir une zone de recherche.
Ah ben, on a pris un bout de signal. Et on s'approche donc du boîtier qui est dans le véhicule.
Et au fil de la traque, c'est l'intensité du signal détecté qui lui indique s'il s'approche de la cible.
Voilà, vous voyez, le signal il est plus aigu. Donc on va stationner, on va finaliser à pied.
Alors évidemment, la récupération est plus simple si la voiture est garée en surface. C'est plus souvent dans des box en sous-sol.
Et là, comme on est devant une entrée de sous-sol fermée, donc je ne peux pas rentrer tout seul, et ben on va appeler les forces de l'ordre.
Les traques sont de plus en plus nombreuses. L'an dernier, elles ont permis de récupérer pour 43 millions d'euros de voitures volées.
Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Cette scène invraisemblable à présent, ça s'est passé mardi soir à Rieux-la-Pape, près de Lyon. Un bus incendié en plein centre-ville par des jeunes qui voulaient se venger.
Deux hommes avaient été interpellés plus tôt dans la journée, possiblement pour trafic de motocross. Lors de l'attaque, des passagers étaient encore à bord du bus. Heureusement, pas de victimes. Le reportage à Lyon du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon.
Tout s'est passé mardi à 23h30. Le bus, qui à cette heure tardive ne transporte que quelques passagers, circule dans le quartier de la Velette, dans le centre de la ville nouvelle, lorsqu'il est attaqué par un groupe de 10 à 20 jeunes dont l'objectif est d'incendier le véhicule, explique le maire de Rieux, Julien Smati.
Ils ont utilisé tout simplement de l'essence. Hein. Les auteurs sont rentrés, ont fait sortir tout le monde et ont mis le feu au bus avec des jerrycans d'essence. Il y avait des gens masqués et capuchés. C'est lié à des interpellations qui ont eu lieu dans l'après-midi sur un camion qui transportait des motocross volés. Ça a été une interpellation un petit peu difficile et le soir même, on a eu entre guillemets cette attaque du bus qui est pour moi des actions de représailles.
Un peu plus tard, une voiture est aussi incendiée et les forces de l'ordre essuient des jets de projectiles. Une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver ces jeunes. Pour l'heure, une seule interpellation a eu lieu, celle d'un mineur. La compagnie de CRS 83 s'est installée dans la ville de Rieux pour prévenir tout débordement. Et hier soir, le quartier n'était plus desservi par les transports en commun. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Montpellier toujours sous le choc ce matin après l'agression ultra-violente d'une collégienne de 13 ans mardi matin devant les grilles de son école. Samara passait à tabac après plusieurs semaines de harcèlement et de menaces en ligne. Selon sa mère, elle était notamment visée parce qu'elle refusait de porter le voile. Placée en coma artificiel pendant plusieurs heures, elle est désormais réveillée et devrait être entendue par la police. Trois mineurs sont toujours en garde à vue.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h35.
La réforme de l'assurance chômage. Gabriel Attal promet une nouvelle convention à l'automne. Cette question, faut-il mettre en place une assurance chômage à la carte ?
Aujourd'hui, la durée d'indemnisation est la même pour tous, peu importe l'ancienneté. 6 mois de travail donne droit à 18 mois de chômage pour les moins de 53 ans. Mais de nombreux actifs le déplorent et estiment que ce fonctionnement est injuste, préférant plutôt du cas par cas. Reportage à la Défense de Geoffrey Branget.
Depuis 20 ans, Thibaut travaille dans un cabinet d'assurance. Pour lui, cette situation n'est pas normale.
Quelqu'un qui a cotisé que pendant 6 mois, c'est quand même un peu problématique qu'il ait les mêmes droits qu'une personne qui a cotisé pendant 10 ans, 20 ans ou plus. Ce serait normal qu'il n'y ait pas la même chose pour quelqu'un qui a plus de 20 années de cotisation chômage, payé, prélevé sur son bulletin de paye tous les mois.
Et selon lui, il faut que le gouvernement mette en place un système sur mesure adapté au marché du travail.
Ça demande du temps. Il faut regarder secteur par secteur, catégorie socio-professionnelle par catégorie socio-professionnelle. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir, faire du cas par cas.
Pour Stéphanie, qui travaille dans la finance, ce sont surtout les droits au chômage des plus jeunes qui doivent être modifiés.
C'est sûr que quelqu'un qui a 25 ans, lui mettre déjà 18 mois de chômage, ça fait déjà une longue période. Il faut aussi pousser les gens à retrouver du travail, ne pas rester sans rien faire et ni profiter, entre guillemets, du système.
La mise en place de cette nouvelle réforme de l'assurance chômage pourrait, selon les récentes annonces du gouvernement, avoir lieu dès cet automne.
Le reportage de Geoffrey Branget pour Europe 1, direction la Bretagne à présent. Une première, 13 habitants du Finistère ont obtenu gain de cause. La justice a demandé l'indemnisation partielle de leur maison, dont la valeur a chuté de 20 à 40% à cause de l'installation de 3 éoliennes juste à côté de chez eux. Les propriétaires seront donc indemnisés directement par la société qui exploite ce parc éolien. Reportage de Sandrine Prioul à Melvin dans le Finistère pour Europe 1.
Pour nous, c'est le supplice chinois. Qui veut acheter ces maisons, là ?
Le bruit permanent des pales, les clignotements rouges en haut des mâts qui obligent à vivre maison fermée. Le tribunal a reconnu que le pavillon d'Annie et Christian a perdu 40% de sa valeur.
Quand même, on ne voit que ça, parce que même là, on la voit. Un, deux, trois.
Mais là, on vit avec en permanence toute la journée.
C'est sentimental aussi. On n'a pas bâti ça hein, comme les éoliennes. En une semaine, c'était monté. Nous, il a fallu toute une vie pour la payer. Est-ce qu'on arrivera à la vendre ? Les acquéreurs ne vont pas se bousculer à ma porte, hein, vous inquiétez pas.
Indemnisés après 15 ans de bras de fer, certes, mais leur avocat, Maître Echezard, plaide surtout pour modifier la réglementation.
Pour le moment, c'est une condamnation qui est extrêmement importante. C'est une première en France. Hein. Donc mes clients, là, ils perçoivent des dommages d'intérêt, certes, mais ils vont continuer aussi à subir ces nuisances. Et tant que cette réglementation-là n'est pas modifiée, eh bien ce type de situation complètement ubuesque va perdurer et au mépris des riverains qui sont les premiers intéressés.
730 000 euros en tout viendront dédommager les 13 maisons.
Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 en Bretagne. Un mot de football, le PSG en finale de la Coupe de France après sa victoire 1-0 hier soir face à Rennes. Les Parisiens affronteront Lyon le 25 mai prochain.
Merci Nina Pavan, c'était votre journal. Petit rappel aussi des vigilances météo qui courent encore aujourd'hui à Nice. A dit 3 départements concernés.
Hein. Oui, 3 départements bourguignons avec toujours Lyon qui est en vigilance rouge avec ce débordement de l'Armançon et cette crue qui pour l'instant stagne. La décrue a commencé hier mais on attend de nouvelles pluies aujourd'hui donc on va avoir un plateau. Et puis la Côte d'Or et l'Aube qui restent en vigilance orange crue, prudence.
À la suivre l'édito international d'Europe 1. Nous irons en Ukraine où l'âge de la mobilisation vient d'être abaissé. De 27 à 25 ans. On manque de combattants sur le front. Vincent Hervouet raconte dans un instant, 7h39.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre début de journée. Il est 7h41. Dimitri Pavlenko.
Message de service. Vincent Hervouet est attendu au parloir. Message de service. Je le dis parce que Vincent n'est pas en studio. Mais c'est pas grave, il y a du monde. En tout cas, dans 10 minutes, sachez que l'édito politique parlera, nous évoquera ces fameuses taxes. Pour qui seront ces taxes qui sifflent sur vos rentes, hein, ces fameuses rentes que Gabriel Attal est tenté de taxer parce que ce serait des revenus indus. On va voir ça avec Alexis Brézet. Le club culture. Ah bah voilà, le message de service a bien fonctionné. Vincent Hervouet fait son entrée, l'impère trempé. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Dans un instant, votre club culture, Nicolas Caro. Le livre du jour, ah ça, ça va être un must en librairie celui-ci.
C'est
hein.
Le nouveau John Grisham,
wow.
Mon préféré.
Moi, j'en profite pour vous souhaiter un bon anniversaire.
Joyeux anniversaire, Nicolas Caro. On voulait vous offrir un livre, mais vous les avez tous lus, donc ça sera autre chose.
La sortie de la semaine également. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Dimitri, on va parler de la comédie musicale du Roi Lion et promis, je n'évoquerai pas la mort de Mufasa qui vous a tous traumatisé.
Bah, bien sûr, fait, on oui. Est parmi.
On peut plus spoiler le Roi Lion, tout le monde sait comment ça finit. Mais d'abord, l'éditeur international Vincent Hervouet, nous allons en Ukraine ce matin. Les hommes jusque-là pour la guerre étaient mobilisés de 27 à 60 ans. L'âge minimum vient de passer à 25 ans.
Oui, le président Zelensky a enfin signé le texte. Il avait été adopté par le Parlement en juillet. 9 mois de réflexion pour une mesure aussi modeste qu'il hésite à assumer. Au début de la guerre, il a refusé de décréter la mobilisation générale, les volontaires affluaient, il fallait garder de la main-d'œuvre pour faire tourner l'économie et aussi épargner les jeunes générations tournées vers l'Europe, contrairement à leurs aînés marqués par le passé soviétique. Résultat, l'âge moyen du fantassin tourne autour de 43 ans. Et puis, la guerre s'est enlisée. Les volontaires ont disparu. À Noël, Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il fallait 450 ou 500 000 hommes supplémentaires, des troupes fraîches pour combler les trous laissés dans les rangs par les morts, les blessés, les disparus, les prisonniers, et aussi relever les combattants épuisés après 2 ans sur le front.
Alors ça va coûter 12 milliards d'euros que Volodymyr Zelensky ne sait pas où trouver. Hein.
Oui, l'aide américaine de 60 milliards est bloquée par les Républicains au Congrès et l'aide européenne de 50 milliards est bloquée par les Hongrois à Bruxelles. Une loi a quand même été présentée en janvier, donnant plus de pouvoir aux centres de recrutement, plus de droits aux réfractaires, permettant aussi d'enrôler les handicapés. En échange, le service durait 3 ans alors qu'il est aujourd'hui illimité. Chaque article a été longuement contesté et le tout finalement déclaré inconstitutionnel, soulagement général. En février, le parti présidentiel Serviteur du Peuple a déposé un autre projet. En 2 mois, il a essuyé 4000 amendements. On comprend que les députés défendent leurs électeurs et que les électeurs redoutent d'être envoyés à l'abattoir. C'est le paradoxe ukrainien. 80% de la population croit à la victoire, mais refuse de payer le prix du sang.
Le recrutement ressemble à une chasse à l'homme.
La BBC estime à 650 000 les Ukrainiens en âge de combattre qui ont fui à l'étranger. À Kiev, on estime leur nombre à 800 000, c'est-à-dire autant d'hommes que sous les drapeaux. Échapper à la conscription a nourri un business florissant. Il y a ceux qui ont passé la frontière après avoir acheté un faux passeport ou un certificat médical. C'était facile vu la corruption régnant dans les centres de recrutement. Volodymyr Zelensky a limogé tous les responsables régionaux et traîné en justice plus d'une centaine d'entre eux qui s'étaient scandaleusement enrichis. À leur place, des sergents recruteurs sillonnent désormais villes et campagnes, faisant des descentes dans les bars, les bus, les marchés pour délivrer des ordres de mobilisation ou enrôler de force les récalcitrants. Comme ça ne suffit pas, le ministre de la Justice propose maintenant d'envoyer au front les détenus qui seraient volontaires, une mesure à la russe que le président hésite à prendre.
Pourtant, il n'est toujours pas question de décréter la mobilisation générale.
Alors, quand on voit les tranchées ukrainiennes, cette guerre d'attrition menée à coups de canon, on pense forcément aux poilus de 14-18. Les armes ont évolué, mais la bataille est comparable avec des fantassins qui doivent percer les lignes de défense ennemies. Et puis la France avait 41 millions d'habitants à l'époque, l'équivalent de l'Ukraine. En 1914, tous les Français de plus de 19 ans ont été mobilisés. L'armée a aligné 3 850 000 hommes pour tenir tête aux Allemands qui approchaient de Paris. Pendant 4 ans, il en est tombé 900 par jour, une boucherie héroïque. Plus de 8 millions de Français ont fait la guerre. En Ukraine, eh bien, ils sont 10 fois moins. L'Ukraine manque d'armes, on le sait, d'argent, de soldats. Mais visiblement, il lui manque autre chose pour faire la guerre au voisin plus puissant qu'il a envahi. L'Ukraine, en fait, c'est le contraire d'Israël.
Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. Il est 7h46.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Le livre du jour à présent, Nicolas Carreau, c'est le nouveau John Grisham. Il arrive en librairie, il s'appelle Le Réseau, ça paraît chez Lattès et c'est un événement.
Mais oui, puisque ce n'est rien de moins que la suite de La Firme. Adapté, vous vous souvenez, en 1993 par Sidney Pollack avec Tom Cruise dans le rôle de Mitch McDear. Un avocat, évidemment, c'est la marque de fabrique de Grisham, lui-même ancien avocat, ce sont des thrillers judiciaires à chaque fois dans La Firme. Mitch McDear était donc un jeune avocat idéaliste, tout juste sorti de l'école, engagé à grands coups de dollars et de Mercedes de fonction par un cabinet d'avocats de Memphis. Il était flatté jusqu'à ce qu'il se rende compte que ses associés travaillaient en fait pour la mafia et il s'en était sorti grâce à son intelligence et ses connaissances juridiques. Mais je vous rappelle pas comment, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce chef-d'œuvre.
Alors, que fait-il maintenant dans Le Réseau? Et on imagine qu'il a vieilli.
Ça se passe 15 ans plus tard seulement. Mitch a 41 ans et on est bien content de le retrouver. Il est toujours marié à Abby et ils ont des jumeaux maintenant. Quand on le rejoint au début du roman, il est au 47e étage d'une tour de verre à Manhattan. Il contemple la vue, il regarde les bateaux autour d'Ellis Island. Il est associé d'une autre firme, S&P, Scully & Pershing, un immense cabinet d'avocats internationaux. Alors, ils font des affaires, mais chaque avocat de la firme doit consacrer 10% de son temps à du bénévolat, de l'aide juridique pro bono, c'est la politique de S&P. Et justement, Mitch vient de fermer un dossier sur lequel il est resté 6 ans bénévolement. Un échec, son client a été condamné à mort en Alabama. Il a une occasion de se refaire, mais ça ne lui plaît pas. Le responsable du service volontariat du cabinet lui demande de défendre un type qui vient de virer tous ses avocats, justement. Il est manifestement fou, dans le couloir de la mort, accusé d'avoir tué 3 policiers. Mitch refuse d'abord parce que c'est à Memphis.
Ah bah c'est son ancienne ville.
Oui, où il n'a pas de bons souvenirs, mais l'autre réussit à le convaincre. Mitch, pardon, part pour Memphis, il ne l'a pas encore vu, qu'il apprend qu'il vient de se pendre dans sa cellule, mais c'est étrange, ça n'arrive jamais. Ça arrive dans les prisons, oui, mais jamais dans les couloirs de la mort. Bon, enfin, Mitch n'a plus rien à faire là. Il passe voir un ancien collègue et ami, Lamar Quinn, et il repart à New York, soulagé. Il n'a pas trop le temps de souffler, puisqu'il doit repartir 2 jours plus tard en Italie. Un associé de la firme est dans une mauvaise posture, il est atteint d'un cancer, bon, et il voudrait que Mitch reprenne un dossier qui défend un client contre l'État libyen pour défaut de paiement. Je vous la fais courte, Mitch part pour gérer la situation avec Giovanna, la fille de l'associé. Mais tout va partir en vrille. Giovanna kidnappée, c'est addictif. C'est du Grisham, donc génial. Mais c'est assez fou quand même aussi, la littérature pour ça. On a vraiment l'impression de retrouver un vieux copain.
Voilà, c'est Le Réseau, la suite donc de La Firme. Le dernier John Grisham, c'est chez Lattès. John Grisham qui est en France, Nicolas.
Hein. Et qui sera à Lyon, à Quai du Polar demain. Et moi aussi, si vous voulez me voir.
Ah. Ah, j'hésite entre John Grisham et Nicolas Carreau.
Vous imaginez, vous avez les deux pour le prix d'un, là, à Lyon.
En plus, c'est votre anniversaire, vous allez être couvert de cadeaux par les lecteurs de Polar. Marie Gigel, la sortie Europe 1 de la semaine, direction le théâtre Mogador à Paris. Que dire de plus? Ça ne désemplit pas Mogador depuis 3 ans grâce au Roi Lion, la comédie musicale de Disney, créée à Broadway en 97. Vous nous emmenez en coulisses ce matin, Marie, de ce spectacle.
Oui, plus d'1 200 000 spectateurs se sont rendus à cette comédie musicale qui reprend le film d'apprentissage du lionceau Simba. Un spectacle poule aux œufs d'or produit par Laurent Bentata.
On a 60% quand même de nos visiteurs qui sont des gens qui viennent de région maintenant. Avant, on était 60% parisiens et région parisienne. Maintenant, on est 60% de gens qui viennent de région. Donc, ça veut dire que le bouche à oreille a dépassé les frontières de Paris.
Alors, imaginez, hein, Dimitri, pour accueillir ce show au décor géant et les 200 artistes techniciens qui y travaillent, le théâtre Mogador a même dû creuser des galeries. Ah oui. Dans son sous-sol.
Rien à voir avec les tunnels qu'on a retrouvés en direction de la santé.
Non. Et alors en coulisses, on voit toutes ces rangées de costumes. Il y a l'infirmerie à marionnettes, les décors, les automates pour que l'homme ne fasse qu'un avec l'animal. Lourde structure, par exemple, le costume de Pumba pèse 25 kilos.
Et c'est Jeff Cocher aussi.
C'est Jeff Broussou alias Pumba qui le porte tous les soirs.
Le spectacle est autant en coulisses que sur scène. C'est très chorégraphié, il y a les décors qui montent, qui descendent, qui vont à droite, à gauche. Pareil pour nous, les changements de costumes. Quand on sort de scène, on peut pas sortir de scène comme ça. On a des endroits bien précis où on doit aller parce que sinon, on a le Rocher des Lions qui sort de scène à ce moment-là. Donc, faut pas qu'on soit au milieu de sa route. Donc, oui, c'est le ballet est à la fois sur scène et hors scène.
Mise en scène grandiose avec ce défilé d'animaux de la savane, décors et costumes chamarrés, musique live composée entre autres par Elton John et Hans Zimmer. Danseurs et chanteurs survoltés, voilà, cette réussite ne lasse pas les spectateurs. Écoutez par exemple le directeur musical Dominique Trottin.
J'ai un spectateur qui est très assidu, qui se met tout le temps en premier rang derrière moi, qui a vu le spectacle 62 fois déjà. Donc, à chaque fois, je le chambre, je dis, mais vous n'avez pas compris l'histoire. Mais voilà, c'est un spectacle qui plaît vraiment de 7 à 77 ans. Et je crois que les adultes préfèrent ce spectacle aux enfants parce que les couleurs, parce que le travail scénique, toute cette richesse.
Voilà, un spectateur fidèle hein, qui sera sans doute l'année prochaine encore pour la 4e saison du Roi Lion.
Voilà, valeur sûre du théâtre à Paris, Le Royaume, c'est donc à voir ou revoir à Mogador. Merci beaucoup Marie Gicquel, merci les amis, à demain. Votre édito politique arrive dans un instant, juste après le journal permanent. Nina Pavan.
Trois mineurs en garde à vue ce matin pour tentative de meurtre sur mineur à Montpellier. Mardi, Samara, 13 ans, a été tabassée devant les grilles de son collège, victime de harcèlement selon sa mère parce qu'elle refusait de porter le voile. L'adolescente doit être entendue aujourd'hui par la police. C'est le coup de fil de la discorde entre Moscou et Paris. Selon la France, une discussion avait lieu hier sur une possible coopération contre le terrorisme. Le Kremlin, de son côté, dit espérer que les renseignements français ne sont pas liés à l'attaque meurtrière qui a fait 139 morts à Moscou la semaine dernière. Le passerail sera bien mis en œuvre dès cet été. Accord trouvé hier entre l'État et les régions pour lancer un abonnement de train à 49€ valable sur les TER et intercités hors Paris pour les moins de 27 ans.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors Gabriel Attal a annoncé mardi la création d'une mission au sein de la majorité chargée de lui faire des propositions d'ici le mois de juin sur la taxation des rentes. Alors jusqu'ici, augmenter les prélèvements, c'était pourtant une ligne rouge pour le gouvernement. Comment vous comprenez cela, Alexis ?
Comme tout le monde, Dimitri. Je comprends qu'on se moque de nous. Enfin, les déficits sont abyssaux. La dette est hors de contrôle. Les agences de notation nous guettent. L'État est incapable de faire la moindre économie et Gabriel Attal a trouvé le coupable. Ce pelé, ce galeux, c'est le rentier. Et oui, parce qu'il n'a pas bonne presse, le rentier. Dans l'imaginaire collectif, c'est un sale type, le rentier. C'est pas l'entrepreneur, svelte et sanglé dans son costume étroit, qui risque son capital pour créer de la richesse et de l'emploi. Ce n'est pas non plus l'honnête travailleur, qui vit de revenus durement gagnés, ce revenu que lui procure son activité de salarié, de commerçant ou d'artisan. Non! Pour nos politiques, le rentier, c'est l'avarice du père Grandet, c'est les comptes d'apothicaire de César Birotteau, Le rentier, c'est le bourgeois qui s'enrichit en dormant. C'est l'épargnant égoïste qui, chaque mois, va toucher à la banque les revenus de ses petits coupons. Le propriétaire terrien qui compte ses fermages. Le logeur qui thésaurise ses loyers avec avidité. De Colbert, qui faisait grief à la rente de ne s'investir ni dans l'industrie ni dans le commerce, jusqu'à l'économiste Keynes, qui, pour sortir de la crise, prônait l'inflation et l'euthanasie des rentiers, rien que ça. C'est une vieille habitude chez les esprits modernes et éclairés de les dénigrer, les rentiers. Et Emmanuel Macron lui-même a fait campagne contre eux en 2017, lorsqu'il a opposé, rappelez-vous, la rente immobilière à l'économie réelle, avant de transformer l'ISF en impôt sur l'immobilier, cet actif réactionnaire qui a le grand défaut de n'être ni fluide ni mondialisé. Donc, en s'en prenant à la rente et en ouvrant la chasse aux rentiers, on peut dire que Gabriel Attal inscrit ses pas dans une longue tradition de mépris technocratique.
Mais alors concrètement, Alexis, cette taxation, sur quelle rente va-t-elle porter et qui va la payer ?
Ça évidemment, Dimitri, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Et puis c'est ce que nous allons découvrir progressivement. Et c'est là, quand il va falloir sortir des clichés, des caricatures, que les choses vont se compliquer. Parce que la rente, c'est pas uniquement les méga-profits de quelques producteurs d'énergie qui auraient indûment profité de la crise ukrainienne. La rente, c'est quoi ? C'est l'épargne du bon père de famille, c'est la poire pour la soif du retraité, c'est le livret A, c'est l'assurance-vie, ce sont les dividendes d'un portefeuille d'actions, ce sont les revenus de ses obligations que l'État émet, et ô combien, pour financer sa dette. C'est le loyer du studio ou du deux pièces sur lequel on compte pour ses vieux jours. Vous verrez, on trouvera même au sein de la mission parlementaire de brillants esprits pour ressortir cette vieille idée que le propriétaire qui a acquis son logement à l'issue d'une vie de travail et d'impôts, eh bien qu'il bénéficie d'une rente puisqu'il ne paie pas son loyer. À ce compte-là, les rentiers, c'est vous, c'est moi, et ça fait beaucoup de monde à l'arrivée.
Tout cela vont être taxés.
Alors là, aujourd'hui, on nous joue le contraire. On nous dit qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre les paroles du Premier ministre, qu'il s'agit seulement de donner un os à ronger aux députés macronistes hostiles à la réforme de l'assurance chômage. Mais que la ligne n'a pas changé, que bien entendu, on n'augmentera pas les impôts des classes moyennes, ni de ceux qui ont travaillé toute leur vie.
Mais demain, quand la pression des agences de notation et donc des marchés sera plus forte, ce sera une autre chanson. Et pourtant, chacun le sait, les 50 milliards que l'État, d'après la Cour des comptes, doit économiser dans les 3 ans, eh bien, il ne les trouvera pas sous le matelas des rentiers.
L'édito politique sur Europe 1, merci Alexis Brézé. À la une du Figaro, justement, taxes, rentes et impôts, la grande confusion gouvernementale. Merci beaucoup Alexis.
Il est 7h56, merci de débuter votre journée avec Europe 1, nous sommes le jeudi 4 avril.
Nous fêtons ce jour Saint Isidore, évêque de Séville au 7e siècle, docteur de l'Église. Il est l'auteur des étymologies, l'origine des choses. C'est la première encyclopédie qui transmettra au siècle suivant l'essentiel de la culture antique. Je vous rappelle qu'à 8h10, juste après votre journal, face à Sonia Mabrouk, le député Renaissance des Yvelines, Carl Olive. Il est 7h57. Nous sommes le jeudi 4 avril, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
À la une, une jeune fille de 14 ans très violemment tabassée devant son collège à Montpellier, c'était mardi. Elle est sortie du coma hier. Les enquêteurs vont entendre son témoignage aujourd'hui. Ces trois agresseurs présumés viennent de passer la nuit en garde à vue. Témoignage exclusif de la maman de la victime dans un instant sur Europe 1. C'est le petit bruit qui monte. Taxer la rente pour renflouer les caisses de l'État. Les intentions fiscales du gouvernement font débat. Les Républicains, eux, sont de plus en plus tentés par une motion de censure pour tenter de faire tomber Gabriel Attal. Cette première depuis plus d'un an, les ministres français et russes de la Défense se sont parlé hier soir au téléphone. Au menu, la lutte contre le terrorisme, ce qui en ressort, c'est que le Kremlin soupçonne les services français d'avoir participé à l'attentat de Moscou. Et puis on vous parlera de cette autrice de 15 ans qui cartonne dans les librairies avec son premier ouvrage, ça s'appelle « Créature », une histoire de fantaisie pleine de promesses. 8h10, votre invité ce jour, Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, c'est le député Renaissance Carl Olive et la majorité qui est sens dessus-dessous avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage. On lui donne donc un os à ronger. C'est la taxation des rentes. Va-t-on donc faire les poches de la France des bas de laine ? À tout à l'heure.
Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Quand harcèlement scolaire et islamisme radical, deux fléaux de l'éducation nationale se mêlent, à Montpellier, Samara, 14 ans, a été roué de coups à la sortie du collège Arthur Rimbaud mardi. Les trois jeunes suspects, dont une collégienne, ont été interpellés, placés en garde à vue. Hier, la victime s'est réveillée du coma artificiel dans lequel elle avait été plongée pour supporter ses graves blessures. Elle sera entendue par la police aujourd'hui et pourra alors témoigner des longs mois de persécution sur fond d'intégrisme religieux qu'elle vient d'endurer, comme le raconte sa mère Assiba.
Samara, elle est coquette. Samara, elle s'arrange. Samara, elle se maquille un peu. Et puis, cette jeune fille est voilée. Et on l'a traitée de couffard. Couffard, ça veut dire mécréante. Ma fille, voilà, elle s'habille à l'européenne. Enfin, elle est voilà, elle est pas voilée. Toute la journée, c'est des insultes. Karbad, ça veut dire pute. Elle est traitée de pute à longueur de journée. Mais elle, c'était plus vivable, en fait. C'est physiquement, c'est psychologiquement. Elle osait même plus me parler parce qu'elle en avait marre de me raconter chaque semaine, maman, il s'est passé ça. Et puis, ben, au niveau du collège, des fois, on la croit, des fois, on la croit pas. Et je me disais, ben, peut-être c'est Samara, peut-être c'est pas elle. Et en fait, au final, quand je vois jusqu'à où cette élève est allée, c'est que en fait, elle a prémédité peut-être le meurtre de ma fille, en fait.
Assiba, la mère de la jeune Samara, au micro Europe 1 de Charles Lhuillier.
Voilà pour ce document Europe 1. Lyon, toujours en vigilance rouge crue ce matin.
La décrue va être extrêmement lente, prévient Vigicru qui note le caractère exceptionnel de l'événement et précise que les niveaux ont dépassé ceux de 1998 en amont de la rivière Armançon. La Côte d'Or et l'Aube restent en vigilance orange crue. Et après les pluies, la poussière, horizon trouble et paysage jauni en vue, une importante brume de sable est attendue ce week-end sur tout le territoire. Prudence notamment si vous souffrez de troubles respiratoire.
La pollution dans le viseur des députés écologistes à l'occasion de leur niche parlementaire aujourd'hui. Ils veulent s'attaquer aux PFAS ou polluants éternels.
Des combinaisons chimiques ultra-toxiques, indestructibles qu'on trouve dans de nombreux objets du quotidien, des revêtements de casseroles, des emballages alimentaires, des vêtements, du maquillage. L'interdiction de certains de ces composants classés cancérogènes sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
8h04 sur Europe 1. Gabriel Attal veut serrer les cordons de la bourse pour enrayer le dérapage des finances publiques. Le Premier ministre envisage de taxer les rentes.
Une mission parlementaire doit plancher sur cette idée. Conclusion attendue dans 2 mois, mais pour le moment tout ça est encore très flou, hein, Barthélémy Philippe.
Oui, car la notion de rente est très large. Les loyers perçus par un propriétaire sont des rentes, les dividendes d'un actionnaire aussi, mais la plupart sont déjà taxés, rappelle l'économiste Jacques Percebois.
Il y a déjà beaucoup de rentes qui sont taxées. L'exemple, c'est les plus-values boursières, les plus-values immobilières sont taxées.
Le gouvernement semble plutôt viser les profits exceptionnels, ceux de grandes entreprises qui profitent profitent de circonstances extraordinaires ou ceux de leurs actionnaires. La députée Renaissance Nadia Hay s'apprête à plancher sur le sujet.
On va aller chasser les produits de l'optimisation financière mal appropriée. Issue des crises, ça va être ça notre trajectoire. Ce n'est pas d'augmenter les impôts, ce n'est pas non plus d'aller taxer l'épargne des Français.
Attention aux déceptions, la taxe sur les rentes des énergéticiens devait rapporter plus de 3 milliards d'euros en 2023. Elle n'a finalement généré que 300 millions d'euros. Autre piste, reconduire la taxe sur les sociétés d'autoroutes. Enfin, la taxe sur les rachats d'actions évoquée il y a un an par Emmanuel Macron pourrait voir le jour.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.
Alors justement, dans une logique d'économie budgétaire, Gabriel Attal envisage aussi de réformer une fois de plus l'assurance chômage. L'objectif, combler ce déficit record de 5,5% du PIB l'an dernier.
Car il pourrait avoir de lourdes conséquences politiques. Les Républicains menacent de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Une hypothèse que la Macronie ne prend pas à la légère, Alexandre Chauveau.
En privé, Gabriel Attal ne cache pas ses inquiétudes car son mandat à Matignon pourrait s'arrêter net. Pour la majorité, le dépôt d'une motion de censure par LR n'est plus qu'une question de temps. J'ai de plus en plus de mal à voir comment il n'appuie pas sur le bouton, confie ainsi une députée Renaissance. À leur place, je ferai dérailler le train en mai, sinon ils sont morts, enchérit de son côté un conseiller du président. Selon nos informations, Laurent Wauquiez plaide fortement pour et enjoint ses camarades de l'Assemblée à devenir acteurs du quinquennat. L'objectif, contraindre Emmanuel Macron à revoir sa stratégie, quitte à assumer une dissolution. Éric Ciotti et Olivier Marleix sont déjà convaincus. L'idée mûrit encore parmi le reste du groupe. Reste la question délicate du calendrier, avant ou après les élections européennes et l'importance du narratif. Il ne faut pas donner aux Français le sentiment d'une manœuvre politicienne, tempère un cadre du parti. Les électeurs doivent bien comprendre qu'on censure la gestion des finances du gouvernement, ajoute un autre. La menace pourrait ainsi être mise à exécution lors du prochain examen du budget.
Alexandre Chauveau.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06.
Allô Moscou, ici Paris. Après un an et demi de silence radio, la France et la Russie ont renoué le contact hier soir.
Alors ce n'est pas Emmanuel Macron qui a décroché son téléphone, mais le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, coup de fil à son homologue russe, Sergueï Choïgou, pour évoquer un ennemi commun, les terroristes islamistes. Mais une fois raccroché, les versions divergent, Dimitri Vernet.
Oui, sur la question de l'attentat de Moscou du 22 mars, tout d'abord quand Paris s'est montré pour le moins coopératif, expliquant sa disponibilité pour des échanges accrus dans la lutte contre le terrorisme, appuyant cependant sur le fait qu'il ne disposait d'aucune information permettant d'établir un lien entre cet attentat et l'Ukraine. Écoutez bien la réponse de Moscou. Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que, dans ce cas, les services français secrets ne sont pas derrière cela. Fin de citation. La guerre en Ukraine a également été évoquée. Le ministère russe de la Défense a affirmé que les deux pays s'étaient dit disposés à dialoguer avec comme point commun, point de départ, l'initiative d'Istanbul pour la paix. Des propos immédiatement démentis par Paris. La France n'a accepté ni proposé quoi que ce soit sur ce sujet, a souligné l'entourage de Sébastien Lecornu. Dernière pique de Sergueï Choïgou dans ce compte rendu russe, à destination cette fois du président Emmanuel Macron et ses propos polémiques n'excluant pas l'envoi de troupes en Ukraine. Moscou a indiqué qu'en cas de réalisation, cela créera des problèmes pour la France elle-même. Ambiance.
Dimitri Vernet, ambiance, oui, tendue entre la France et la Russie. Drôle d'anniversaire donc pour l'OTAN qui fête aujourd'hui tout de même ses 75 ans.
Les sports, rendez-vous le 25 mai pour la finale de la Coupe de France.
Oui, en football, on en connaît désormais l'affiche. Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain après la victoire hier soir des Parisiens 1-0 face à Rennes. Et puis, à 113 jours des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron inaugure aujourd'hui la piscine olympique à Saint-Denis. Elle accueillera les épreuves de waterpolo, danse aquatique et plongeon. C'est le seul équipement qui a été entièrement bâti pour ces JO.
Et vous êtes peut-être en vacances. Pour d'autres, ce sera très bientôt. Que lire pendant les vacances? Surtout pour les jeunes. Europe 1 vous suggère le roman Créature.
Et si vous aimez la fantaisie, le premier tome intitulé La Malédiction est juste fait pour vous. Ouvrage d'autant plus brillant qu'il a été écrit par une adolescente de 15 ans. Une petite prodige que Sébastien Bourdonnave a rencontrée pour Europe 1.
Le genre choisi par la jeune Marie El Rénal est celui de la fantaisie. Au programme du surnaturel donc, de la magie, du fantastique, et ce premier livre l'est fantastique. À mi-chemin entre Game of Thrones et La Reine des Neiges, l'héroïne vit dans un royaume de givre et une malédiction va venir gâcher sa vie de fille de princesse. Mais il faut bien avouer que le plus surnaturel dans tout ça, c'est l'âge de l'autrice, 15 ans. On imagine dès lors très bien ses petits camarades la regarder bizarrement.
Pas du tout, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon lycée qui le savent.
savent, donc elles ont hâte de lire et elles sont très encourageantes.
Marie-Elle Rénal m'a expliqué avoir déjà toute l'histoire dans sa tête. Là, c'est le tome 1, elle peut faire 4 ou même 5 tomes. Dans sa chambre, une énorme pile de cahiers avec toutes ses idées, les intrigues et les rebondissements. En tout cas, voilà une lycéenne promise à une brillante carrière littéraire.
Non, pas du tout. D'ailleurs, mes études, je pense que je vais plus aller vers du scientifique. Il y a beaucoup de matières qui m'intéressent, en fait. Je pense que je suis assez curieuse.
Allez, la prochaine fois, j'essaierai de lui trouver des défauts. En attendant, lisons Créature, publié chez Le Passeur.
Sébastien Bordenave.
Voilà, on sait ce que va lire Sébastien pendant les vacances. Oui, il aime bien. Des fois, quand il n'y a que du texte, il apprécie aussi.
C'est vrai.
Et oui, notre monsieur BD sur Europe 1. Merci Fanny Marceau.
Merci à
allez,
vous.
Restez avec nous dans un instant. Carl Olive, le député Renaissance des Yvelines et l'invité de Sonia Mabrouk.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Merci d'écouter Europe 1 tout de suite. Carl Olive est l'invité de Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Carl Olive.
Sonia Mabrouk, bonjour, merci pour l'invitation.
Et merci de votre présence. Vous êtes députée Renaissance des Yvelines, vous avez été maire de la ville de Poissy. Carl Olive, dans l'actualité, cette violente agression d'une collégienne de 14 ans à Montpellier qui est sortie du coma après avoir été rouée de coups par trois mineurs, ce sont ses agresseurs présumés. La mère accuse l'école de ne pas avoir réagi. Bien sûr, une enquête est en cours, on va donc faire attention. Malgré tout, je voudrais vous faire écouter les propos de la mère au sujet de sa fille.
Samara, elle est coquette, Samara, elle s'arrange, Samara, elle se maquille un peu. Et puis cette jeune fille est voilée. Et on l'a traitée de couffard. Couffard, ça veut dire mécréante. Ma fille, voilà, elle s'habille à l'européenne. Enfin, elle est voilà, elle n'est pas voilée. Toute la journée, c'est des insultes, carbade. Ça veut dire pute, elle est traitée de pute à longueur de journée. Mais elle, c'était plus vivable, en fait.
Propos recueillis par nos journalistes sur Europe 1. Quel sursaut quand on entend cela?
Bon, d'abord le soutien à la famille, à cette demoiselle, parce que c'est inadmissible. Une enquête est en cours et j'entends bien que, y compris les mineurs, soient sévèrement punis. Façon sous-jacente, Sonia Mabrouk, qui est le sujet de la laïcité. La laïcité, toute la laïcité, rien que la laïcité. Dans les écoles, dans les collèges, comme c'est le cas ici à Montpellier, comme dans les enceintes sportives. C'est pas pour rien, comme à Poissy, mais comme ailleurs. Dès 2015, on a mis en place une charte de la laïcité. Et ce n'est pas négociable. Il n'y a pas de sujet par rapport à cela.
Ça, ce sont des mots, la laïcité, c'est la panacée aujourd'hui. On a l'impression que c'est un bouclier persique.
Non, c'est pas des mots. Il y en a beaucoup qui en parlent, mais il faut mettre des actes en face des mots. Et là, il faut effectivement se poser les bonnes questions. Mais au-delà de ça, on voit bien la fracture de la société dans tous les secteurs. Et moi, j'appelle au dialogue interculturel, au dialogue entre les religions, parce que ça me paraît très important. Et je reste à ma place. C'est ce qu'on a fait à Poissy, tous les trois mois. Et pour tout vous dire, alors je pense que l'apaisement dans nos quartiers, dans nos villes, passera aussi par un apaisement par les représentants de l'ensemble des cultes.
Il est nécessaire, mais est-il suffisant? Depuis plusieurs semaines, l'école française est au cœur de l'actualité. Après notamment, Carl Olive, la décision du proviseur du lycée Maurice Ravel. Beaucoup ont parlé, non pas de sa décision, mais du fait qu'il soit parti sans tellement de soutien pendant des semaines, d'une défaite, d'une capitulation française. Qu'a répondu la ministre de l'Éducation? Une brigade de sécurité mobile. Est-ce que c'est vraiment à la hauteur du défi?
C'est pas la solution, et je vous le dirai au cours de cet entretien, Sonia Mabrouk, c'est une solution. Mais encore une fois, si on ne prend pas le sujet à bras-le-corps, il ne date pas d'hier, on s'en sortira pas.
Mais qui vous le dites? Évidemment. Qui ne prend pas le sujet à bras-le-corps?
Mais je pense qu'on doit avoir, encore une fois, on doit avoir une concorde politique républicaine sur l'ensemble de ces sujets, mais que chacun s'exprime, de l'extrême gauche à l'extrême droite, que chacun s'exprime sur ce sujet.
Qui doit être en premier responsable d'une telle situation?
Mais moi, je suis pour les règles, Sonia Mabrouk. Je suis pour la règle. Je suis pour l'autorité de l'État dans tous les secteurs. Et si on ne veut pas que l'autorité de l'État se dégrade, alors, quand on touche un enseignant, qu'on touche un élu, qu'on touche un policier, on touche à la République et on abîme les Français.
Mais ces mots, ils sont importants, mais on les entend depuis 7 ans au pouvoir. Et il est vrai...
Non, pas depuis 7 ans, Sonia Mabrouk. Ça fait 20 ans qu'on entend ça.
Oui, mais là, la situation devient presque intenable.
Non, mais elle n'est pas plus intenable. Simplement, on peut mettre à géométrie variable. Et là, je le rejoins. Ce qui s'est passé à Montpellier est inacceptable, comme ce qui se passe parfois sur des tags, dans des enceintes pour les Juifs, dans des enceintes pour les musulmans, dans des enceintes à la collégiale de Poissy, comme ça a été le cas il y a quelque temps. Ça suffit. Il faut qu'on ait des réactions qui soient à la hauteur des délits. C'est quand même pas très compliqué. On a une justice qui va faire son œuvre et qui va faire son chemin, mais il faut le faire savoir. Quand ces gens-là seront punis, il faut le faire savoir. Et j'en profite pour vous dire que je crois au dialogue interculturel. Équipe de France des cultes, avec un rabbin, un évêque, un imam et un pasteur, le Variété Club de France, c'est un symbole. Le 5 mai à Poissy, je crois à cela, avec Jacques Vendroux.
Autre actualité, Carl Olive, la situation est très dégradée de nos finances publiques. Hier, l'agence de notation Fitch a estimé que les objectifs de réduction budgétaire français, je cite, sont de plus en plus hors de portée. Et on sait qu'il y a une actualisation à venir de la note française à la fin du mois. Vous qui êtes un passionné de football, est-ce que vous diriez là que c'est un carton jaune avant le carton rouge, la sortie?
Je dirais que là encore, soit on est acteur des actions qu'on met en place, soit on est spectateur et commentateur de tout le reste.
On est dans le match. Hein.
Non, mais oui, mais ça, il faut le laisser aux spectateurs, vous voyez. Là, on laisse les spectateurs dans l'enceinte et ceux qui sont sur le terrain, comme Gabriel Attal, ils prennent ça bras-le-corps. Moi, je rejoins l'idée de dire qu'il faut que nous allions sur, peut-être pas une réforme, mais à bras-le-corps sur un combat par la reprise de l'activité. Dans ce pays, on a un taux de chômage qui est au plus bas depuis 40 ans. Et je vais vous donner quelques pistes. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas des solutions, mais l'addition de tout cela fera des solutions.
Le chômage au plus bas depuis 40 ans.
Oui, enfin, excusez-moi, mais l'assurance chômage, ce que propose Gabriel Attal, oui, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Alors, beaucoup remettent en cause le fait que ce soit vraiment incitatif pour reprendre le travail et estiment que c'est surtout pour prendre de l'argent et faire des économies.
Attendez.
Une partie de votre majorité,
oui,
monsieur le député,
oui,
pense dessus.
Non, mais moi, le pays est bien plus important que le parti, quel que soit le parti. Je préfère vous le dire très clairement. 2019, les Gilets jaunes, le grand débat national, Juliette et Arnaud, couple. Tant qu'il y aura un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler, alors ce pays ira droit dans le mur avec les classes moyennes. Ça date pas d'hier. Mais évidemment qu'il faut qu'il y ait une incitation. Mais c'est pas stigmatiser l'assurance chômage. Absolument pas. Mais de la même manière, moi
pourquoi
je suis...
Pourquoi certains le croient? Pourquoi votre, enfin, l'aile gauche, ou en tous les cas ce qu'on peut appeler des frondeurs entre guillemets de gauche, Sacha Houlier disait dimanche, je le cite, ne pas vouloir faire de mesures d'économie sur les chômeurs. Yael Braun-Pivet plaide de son côté pour une stabilité en attendant de regarder
c'est pas bien.
Les effets.
Non
produits.
Mais je vous le dis, c'est pas bien. Moi,
c'est
je... Non, c'est pas bien. C'est pas bien. On a un Premier ministre et un Président de la République qui donnent un cap. Ils seront jugés sur les résultats. C'est pas bien de la part de mon collègue Sacha Houlier, que je respecte beaucoup, de la part de Yael Braun-Pivet, qui s'exprime personnellement, qui est une excellente présidente de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas bien. C'est quelque part jouer contre son camp. On peut se parler dans le vestiaire. Mais moi, je suis le cap qui a été donné par le Président de la République et par le Premier ministre.
Vous connaissez le cap? Vous voyez
bien
un cap budgétaire très clair?
Bien sûr, je vois un cap.
C'est plutôt la grande confusion.
Mais Sonia Mabrouk, on sera jugé sur les résultats. On ne sait pas sur quoi on voit. Ce que je note quand même, c'est que depuis 40 ans, encore une fois, le chômage est au plus bas, qu'on a encore aujourd'hui des entreprises qui ne cessent de manquer de recrutement. Donc, il y a des solutions. Mais de la même manière, je veux aussi que ces entreprises qui ont pu bénéficier d'aides colossales de l'État au cours du quoi qu'il en coûte puissent être rattrapées par la patrouille. Ça a été le cas avec les laboratoires. Ouais. Donc effectivement qu'il y a des super profits. Il n'y a pas encore une fois la bonne solution. Il y a l'addition de solutions qui feront la solution pour s'en sortir.
Mais
Sonia Mabrouk,
oui,
on ne va pas s'en sortir les uns.
C'est une solution que craignent beaucoup de Français. C'est que vous fassiez les poches de la France des bas de laine. L'idée de la taxation des rentes, parlons-nous clairement, Carl Olive, ce matin sur Europe 1 et CNews, c'est quoi? C'est les détenteurs d'assurance vie, de livret A, d'épargne. C'est ça que vous voulez taxer
non,
dans
c'est,
un pays
c'est,
aussi taxé?
Écoutez bien, c'est pas ce qu'a dit Gabriel Attal.
Est-ce que c'est ce qu'il pense?
Non, c'est pas ce qu'il a dit. Gabriel Attal, il a demandé
c'est
à ce qu'il
pense.
Non, mais je vous le dis, c'est pas ce qu'il a dit. Et encore une fois, non, mais il y a ce qu'il pense, il y a ce que vous pensez, il y a ce que je pense, et puis il y a ce qui va
que
se passer.
Craignent les Français.
Oui, mais ils ont raison de craindre les Français. D'ailleurs, moi, je vais leur proposer quelque chose aux Français, parce qu'il n'y a pas de raison que ça sorte de la poche des ministres, que ça sorte de la poche des députés, qu'ils fassent des contributions. Et moi, je suis à leur disposition qu'ils fassent des contributions. Vous voyez, avec Génération Terrain, qui est cette association que nous avons fondée avec des collègues de gauche comme de droite, qu'ils fassent des contributions. Moi, je les porterai directement au Premier ministre et au Président de la République. Et je peux vous dire que de temps en temps, ils m'écoutent en stéréo, pas en mono.
Gabriel Attal, en tout cas, il est très écouté, mais en tout cas, il est seul en scène, plutôt à l'Assemblée. Et désormais, il prend à son compte toutes les questions au gouvernement. Certains, caricaturent cela en show du Premier ministre, sa volonté de capter, accaparer la lumière. Vous vous dites très bien, il faut que ce soit lui qui, à la fois, prenne, toutes les critiques et puis réponde aux questions.
Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un objectif, que ce pays soit redressé et qu'il aille beaucoup mieux et qu'on soit dans un meilleur vivre ensemble et qu'on arrête systématiquement de jouer pour le coup les uns contre les autres. Bien sûr qu'on le veut tous. Ouais. C'est peut-être une solution. C'est peut-être l'innovation, vous savez, l'ouverture d'esprit, pas une fracture du crâne. C'est peut-être une innovation qu'il faut tester. Et Gabriel Attal, il a raison de tester ça au sein de l'Assemblée. Et puis, ça va permettre aussi aux opposants de réfléchir à deux fois pour sortir parfois des balivernes lorsqu'ils posent des questions.
Ça peut arriver parfois aussi à des ministres, à des porte-paroles de gouvernement de se tromper sur des sujets importants.
Et je suis bien placé pour le savoir parce que ça m'arrive également. Mais vous savez, il n'y a que ceux qui ne tirent jamais les pénalties qu'il les rate jamais. Vous voyez ? Ça, ils ont des bonnes statistiques.
Alors, vous parlez de pénalty, vous parlez de sport. Parlons-en, Carl Olive, parce que vous avez présenté avec une autre députée, Claudia Rouault, qui est socialiste, vos conclusions suite à une mission flash sur l'activité sportive au travail. Alors, ça concerne beaucoup de monde qui nous regarde ce matin. Un enjeu de santé publique, dites-vous. Comment on peut articuler aujourd'hui sport et justement vie au travail ? Est-ce qu'il y a une piste emblématique ?
D'abord, je vais vous dire ici, Sonia Mabrouk, qu'on dit souvent que faire du sport, c'est bon pour la santé. Le sujet, c'est que ne pas faire de sport, c'est un danger pour la société. Il y a 94% aujourd'hui dans ce pays de personnes qui sont considérées comme sédentaires, alors qu'elles font 1 à 2 heures d'activité par semaine de sport. Quand vous passez 8 heures sur un bureau, vous pouvez faire 2 heures de sport, vous êtes considéré comme sédentaire. Une femme sur cinq cumule la sédentarité et l'inactivité sportive. Ça, c'est juste pas possible. 95% des arrêts de travail sont dus aux troubles, ce qu'on appelle troubles musculo-squelettiques. Et donc, il y a des questions à se poser. C'est les questions que nous sommes posées avec ma formidable collègue députée Claudia Rouault pendant quelques 3 mois. 60 acteurs de terrain entendus. Moi, je vous dis acteurs de terrain parce que c'est validé par le terrain. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer ? L'expérimentation, par exemple, dans les collectivités, celle qu'on a proposée à Poissy. 2 heures de sport depuis 2017 aux agents dans le cadre du temps de travail par semaine. Amélioration des conditions de travail, pacification sociale, baisse de l'absentéisme, 750 jours, 100 000 euros d'économie. J'ai eu besoin de l'État ? On n'a pas eu besoin de l'État. C'est une volonté collective. Dans les entreprises, pourquoi pas mettre en place un ticket sport comme le ticket restaurant ? On abonde avec l'entreprise, légèrement avec le salarié, comme c'est parfois le cas. On est allé à Saint-Malo dans l'entreprise Roulier. C'est des formidables expérimentations de terrain. C'est quelque chose qui peut être encore une fois mis autour de la table. Ce que je sais, c'est que c'est le moment. Ce que je sais, qu'il nous faut un choc culturel.
Oui.
Encore une fois, il y a trop...
Je me rappelle d'Emmanuel Macron qui avait dit qu'il faut une nation sportive. Je me demande quelle est la limite à partir de laquelle l'État ne va pas nous dire combien il faut faire de sport, quel sport, combien d'heures, comment, etc.
Mais Emmanuel Macron a raison de dire qu'il faut faire nation par le sport.
Mais est-ce que c'est le rôle d'un président de la République ?
Oui,
on le voit.
Oui, Sonia Mabrouk. Oui.
Nos auditeurs d'Europe 1.
Je vais vous expliquer pourquoi.
Les gants de boxe.
Parce que le sport.
Faire 30 minutes, je crois.
Le sport, c'est un catalyseur social transversal. Le sport, c'est le sport famille, le sport santé, le sport loisir, le sport citoyenneté. Et la citoyenneté, on en a besoin.
C'est l'État nounou.
C'est le sport emploi. C'est l'État nounou. Mais moi, si l'État nounou nous permet de redresser la France, eh bien, je veux bien être une des nounous de ce beau pays. Vous voyez ?
Mis à part ça, vous avez une autre corde à votre arc. Vous êtes aussi et surtout membre de la fameuse commission sur les fréquences TNT. Je voudrais vous faire réagir à cela, Carl, parce que le président de cette commission, Quentin Bataillon, Renaissance aussi, est au centre d'une polémique après avoir donné son avis sur le plateau de Cyril Hanouna sur C8 concernant l'attitude de Yann Barthès, l'animateur de Quotidien, qui a aussi été auditionné d'ailleurs comme moi, comme Monsieur Hanouna, comme Pascal Praud et Laurence Ferrari. Et Quentin Bataillon a été rappelé alors, notamment par la présidente de l'Assemblée nationale, une partie de votre camp, les Insoumis demandent sa démission. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous, par exemple, ce matin, vous le soutenez ?
Alors, d'abord, Quentin Bataillon, on peut reconnaître que l'ensemble de l'enquête parlementaire a été salué, notamment par la tenue de son président, de Quentin Bataillon. Quentin Bataillon, il s'est refusé pendant l'ensemble de la durée de l'enquête de pouvoir intervenir sur quelque plateau que ce soit. Je me souviens, avant le début de l'enquête, avant, il a terminé, entre guillemets, la tournée des médias par France Info. Il a décidé de commencer par TPMP avec Cyril Hanouna il y a quelques jours. Il a fait une maladresse. En s'en prenant directement et personnellement à Yann Barthès. Quentin Bataillon, il a fait une maladresse. C'était inutile et je pense que ça a dépassé sa pensée.
Est-ce que la polémique est à la hauteur de la maladresse
demander
sa démission ?
Je vais vous dire.
La présidente, je voudrais citer, de l'Assemblée nationale qui appelle au discernement et à la réserve, d'ailleurs à la fois le président et le rapporteur. Est-ce que vous trouvez aussi, par exemple, que le rapporteur fait preuve de discernement ?
D'abord, je vais donner une suggestion à Quentin Bataillon. C'est de s'excuser et de proposer à Yann Barthès de l'accueillir sur son plateau Quotidien. Ce serait une belle marque fair play.
Mais je dirais que c'est le pluralisme. En fait, Monsieur Bataillon va sur le plateau, il est...
Mais je vais vous dire, moi j'ai vécu ce que c'est un lynchage en race campagne à l'époque où j'ai fait la tribune sur le JDD. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de soutien quand on est champion olympique, voyez-vous. Là, Quentin, il est comme une tortue, le dos en l'air, là, on cherche quelques soutiens. Et j'aimerais qu'il soit un tout petit peu plus soutenu. Il a fait une maladresse, c'est une boulette. Qui n'en fait pas. Hier, je vous donne une petite anecdote qui en dit long. J'ai un de mes collègues députés qui m'a dit, moi, si j'avais été à la place de Bataillon sur le plateau, j'aurais jamais dit ça. Ah bah ça risque pas, t'es jamais invité. Ben oui, c'est très facile de venir commenter. Qui n'en fait pas ? Non, je pense qu'il faut que, encore une fois, Quentin puisse s'excuser, ce qui n'enlève en rien l'excellence de Quentin Bataillon pendant l'ensemble de la durée.
Et les travaux de la commission, parce que certains sont en train de remettre en cause tout l'ensemble des travaux, de ce qui a été dit.
À chaque fois, j'aimerais bien qu'on s'offusque aussi à chaque fois qu'il y a une sortie de route, un dérapage de la France Insoumise. Alors, on ferait des éditions spéciales 24 heures sur 24.
Une question, quand M. Saint-Toul est invité d'une émission Le Média, qui est un média mélenchoniste et qui parle également de la commission d'enquête, est-ce qu'on estime qu'il sort aussi de son devoir de réserve ou pas ? Parce que là, il n'y a pas eu de réaction.
Mais moi, je vais vous dire, j'ai du respect pour le rapporteur Saint-Toul. Chacun, comme disait Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Voilà. Et chacun est pris en responsabilité sur ce qu'il a ou pas à dire. C'est ce qui s'est passé pour Quentin Bataillon. Ça va se régler. Ça n'enlèvera en rien le contenu de ce qui s'est passé sur l'ensemble de l'enquête parlementaire. Écoutez, il y a suffisamment de problèmes dans ce pays. Moi, j'ai une pensée pour, vous voyez, dans Lyon, en ce moment-là, ils sont pas en train de se demander s'il faut régulariser, faire démissionner Quentin Bataillon. Ils veulent savoir comment ça se passe pour sortir, justement, c'est le cas de le dire, la tête de l'eau.
Monsieur le député Carlouli, merci à vous. C'était votre grande interview. Je vous dis à très bientôt.
Merci, Sonia Mabouk.
7h, 9h. Europe 1 Matin.
Vos signatures Europe 1 arrivent dans un instant, juste après le journal permanent à 8h30. Christophe Lamarre.
La collégienne violemment agressée à Montpellier devrait être entendue dans les heures qui viennent. Enquête ouverte pour tentative de meurtre sur mineur. Trois de ses agresseurs présumés sont toujours en garde à vue ce matin. Leur motivation reste assez floue. Agression qui fait réagir la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, fait part de son émotion sur le réseau X. Sur Europe 1 et CNews, Carl Olive parle d'un acte inadmissible. Invité de la grande interview ce matin, le député députée Renaissance des Yvelines estime que cette agression pose la question sous-jacente de la laïcité. Les sinistrés de Lyon obligés de faire preuve de patience. Si le pic des inondations a été atteint cette nuit le long de la rivière Armançon, la décrue s'annonce très lente. Le département reste en alerte rouge. Quelques heures de répit supplémentaire pour les lycéens qui n'ont pas encore confirmé leur vœu sur Parcoursup. Ils peuvent le faire jusque 22h ce soir. Délai accordé après la panne qui a bloqué l'accès à la plateforme hier. Enfin, une affiche Paris Saint-Germain Lyon en finale de la Coupe de France le 25 mai prochain. Paris vainqueur 1-0 de Rennes hier soir en demi-finale.
Merci Christophe. Le temps, Anissa Haddadi, c'est très humide au nord, chaud et ensoleillé pour le sud et même très chaud.
Hein. Oui, nous avons deux ambiances bien différentes aujourd'hui avec une France coupée en deux. Alors la frontière se situe au niveau d'une ligne entre Bordeaux et Lyon. Au nord de cette ligne, mais c'est encore très nuageux avec des averses fréquentes ce matin entre le Poitou-Charentes et le Grand Est. Cet après-midi, les averses les plus fréquentes vont se situer sur le nord-ouest entre la Bretagne, la Normandie et le nord des Pays de la Loire. À l'est, quelques coups de tonnerre sont possibles, notamment sur la Champagne-Ardenne. Et attention au vent qui va souffler fort. Aujourd'hui encore, on pourra avoir des rafales jusqu'à 80 km/h dans les Hauts-de-France, 70 km/h pour la région parisienne. Dans le sud, pas grand-chose à dire. Hein. C'est une ambiance printanière avec un soleil assez radieux, surtout entre les Pyrénées et la Côte d'Azur. On a quelques entrées maritimes cet après-midi qui viendront masquer le beau temps, surtout sur les côtes héraultaises et les côtes du Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône, oui. Les vigilances, attention, Lyon reste en vigilance rouge, la Côte d'Or et l'Aube sont en vigilance orange cru. La décrue sera très très lente. Les températures, elles sont déjà en hausse avec cet après-midi près de 25 degrés, les premiers 25 degrés de la saison. 25 à Montauban, 24 à Toulouse, 22 à Brive-la-Gaillarde, 18 degrés pour Paris, Marseille, La Rochelle et Besançon, 17 à Chartres, 15 degrés à Quimper et 13 à Boulogne-sur-Mer.
Merci Anissa Haddadi. 8h33.
7h-9h. Europe 1 Matin.
Voici venu vos signatures Europe 1 du jeudi dans un quart d'heure. Le zapping politique de Jérôme Béglé, le directeur général de la rédaction de Paris Match. Emmanuel Ducrot nous parlera de l'ONU qui vient de choisir l'Arabie Saoudite, inventrice de l'Abaya, pour diriger la commission sur la condition des femmes. C'est original. La revue de presse d'Europe 1 dans 5 minutes. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour à tous.
Allez, dans les journaux ce matin, que lit-on ?
Eh bien, vous connaissez Monaco et son marin. Je vais vous faire découvrir la principauté du cannabis et cocaïne land. On évoquera aussi la motion de censure qui se rapproche. Et puis nous parlerons du véhicule présidentiel le plus célèbre de la Ve République.
À tout de suite. Mais d'abord, Gaspard Proust sur Europe 1.
Le meilleur de Gaspard Proust sur Europe 1.
Fabien Roussel, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard.
Bonjour. Oh mais qui vois-je ? Il est vivant. Il est là, entre ici, colonel Roussel, avec ton terrible cortège d'antifa aux trousses.
Alors, petite confidence à nos auditeurs, je suis désolé de dévoiler un peu de votre intimité, Fabien, mais c'est trop tentant. On a mis des micros et des caméras dès l'entrée de notre bâtiment. Et il faut que nos auditeurs sachent que dès que notre invité a passé la porte, il s'est mis à chanter de manière très distincte ceci.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'étranger qui, sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris.
Ah, elle est belle, cette chanson. Ouais.
Alors... Oui, voilà ce que tu chantais, camarade. Et ici, tu trouveras micro, gîte, café, muffin et sucrète. Ici, tu seras en sécurité, tu pourras t'exprimer sans honte. N'as-tu pas constaté par toi-même qu'à aucun moment durant l'interview, Sonia n'a brandi la pancarte « Roussel, je te cancelle ». C'est pas l'esprit ici, Fabien. Et plus le temps passe, plus cette matinale ressemble à un orphelinat pour les enfants rejetés par la famille Bolchaud, cette famille qui ne cesse de manger ses propres enfants. Alors pose donc ta besace, respire. Toi qui sans doute témoigneras un jour chez Pascal Praud avec le livre « De coco à cocu, un parcours français ».
J'ai l'impression que vous faites allusion à l'exfiltration de notre invité de la manif contre la loi immigration dimanche à cause des antifa. Alors pardonnez-moi d'ailleurs Fabien Roussel, j'ai dit la CGT, c'est une approximation.
Oui Dimitri, c'est pourquoi, chers auditeurs, je vous demande ce matin un peu de compassion, car ce matin, non, nous n'accueillons pas un énième homme politique, un caudillo de la faucille et du marteau, un Che Guevara de la merguez, non. Nous accueillons d'abord un petit pinson aux plumes ébouriffées tombé de son nid. Ce matin, chers auditeurs, sortez de votre esprit cette image de bolchevique à couteau entre les dents qui veut saigner votre PEA. Mais imaginez plutôt une mésange qui se serait prise en pleine gueule la vide de la pergola et resterait KO pendant 10 minutes sur la terrasse. Car dans cette manif sinistre à laquelle vous avez participé, nous avons entendu des cris que nous ne voulions plus jamais entendre. Cours, Roussel, cours! Un moment, on se serait cru dans un remake ch'ti de Forrest Gump.
Voilà Gaspard Proust qu'on retrouve en live, en direct sur Europe 1, mardi. Restez avec nous, dans un instant, Emmanuel Ducrot. Pascal Praud passera une tête aussi pour nous livrer le sommaire de Pascal Praud et vous. Et la revue de presse d'Europe 1 aussi, Olivier Delagarde, c'est dans quelques instants.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
8h38 sur Europe 1 cet après-midi, Stéphane Bern va vous faire revivre le 4
avril 1968.
Vous l'avez reconnu Dimitri, ce
Martin Luther King.
Exactement,
oui.
Et bien il y a 56 ans, le 4 avril 1968, à 18h01, Martin Luther King est assassiné sur le balcon du Lorraine Motel à Memphis, dans le Tennessee. Et bien cet après-midi, Stéphane Bern vous raconte la véritable histoire de la mort de Martin Luther King dans Historiquement Vôtre de 15h à 16h sur Europe 1.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence cette lecture des journaux avec une question. La guerre contre le trafic de drogue peut-elle être gagnée?
Eh bien, en tout cas, on en est loin à la lecture de l'Express cette semaine qui consacre un dossier glaçant à ces quartiers gouvernés par les dealers. Des sortes de principautés de la drogue, comme les décrit Étienne Girard, où les trafiquants non seulement règnent en maître, mais se substituent parfois à l'État. À Cavaillon, par exemple, le 14 juillet dernier, les dealers avaient organisé une fête pour les 2500 habitants d'une cité. Stands de grillades, de boissons, de trampolines, piscines hors sol étaient à disposition. Pour ne pas être dérangés par la police, les trafiquants avaient coulé des dos d'âne aux entrées de la cité. En fait, ces véritables checkpoints, on en trouve désormais à l'entrée de pas mal de quartiers, à Montpellier, Nice, Nîmes, hier, Toulon. Dans toutes ces villes, des cités se murent pour se protéger des importuns, que ce soit la police ou des bandes rivales, comme des principautés à l'intérieur de la République, des petits États indépendants, avec zone franche. Selon un rapport officiel et confidentiel que l'Express a pu consulter, la vente au détail de drogue assure aux dealers une marge de 167% sur le cannabis et 72% sur la cocaïne. Alors, place nette XXL, me direz-vous ? Eh bien, sans être anecdotique, ces opérations ne semblent pas être en mesure de gêner durablement les filières, comme à Grenoble, où les vendeurs de stupéfiants ont l'habitude de tirer un feu d'artifice quand ils atteignent le million d'euros. À lire dans l'Express.
Vous avez dit super profit. Sinon, l'idée d'une motion de censure pour faire sauter le gouvernement fait son chemin à droite.
Oui, c'était hier dans le Parisien Aujourd'hui en France qui racontait que le sujet avait été évoqué au cours d'une réunion LR à l'Assemblée. Aujourd'hui, eh bien, c'est le Figaro qui consacre une pleine page au sujet. Et preuve que le projet est relativement avancé, on en est même à discuter du meilleur moment pour appuyer sur le bouton rouge à droite avant ou après les européennes. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, raconte Willy Bordas, on sait la menace sérieuse depuis qu'un sondage confidentiel, commandé en secret par les Républicains, a fuité.
en cas de dissolution, c'est le RN qui se retrouverait majoritaire. Si j'étais le groupe LR, commente un rien cynique à un visiteur du soir du président, je censurerais le gouvernement en mai. Ce serait un très mauvais coup porté à Emmanuel Macron. Très sincèrement, ajoute-t-il, je ne vois pas pourquoi les LR ne tenteraient pas le coup. D'autant qu'une chose est sûre, affirme le Figaro, cette motion serait votée aujourd'hui par tous les groupes d'opposition. D'ailleurs, certains se préparent déjà en coulisses à une recomposition après les européennes. À en croire le point de cette semaine, Xavier Bertrand ne serait pas hostile du tout à l'idée de remplacer Gabriel Attal à Matignon. Et puis dans le même numéro du Point, on apprend qu'en revanche, Bruno Le Maire ne serait plus très en cours à l'Élysée. Emmanuel Macron ne le prend même plus au téléphone, souffle-t-on en haut lieu. Le maire qui vise 2027 est soupçonné de chercher la rupture avec le chef de l'État. Il pilonne les Républicains dans le but de déclencher une motion de censure, ce qui lui permettrait de sortir sans avoir à démissionner et tout en ayant averti en amont de la situation financière. Mais, mon cher Dimitri, la politique, ce ne sont pas seulement des calculs machiavéliques, des coups de billard à cinq bandes. On va terminer avec un épisode qui a fait rire la France entière et même bien au-delà.
Bonjour, c'est François Hollande.
Voilà, merci à Dimitri Bernet, à qui l'on doit cette petite évocation sonore du scooter avec lequel François Hollande allait rejoindre au petit matin Julie Gayet, un sachet de croissant à la main.
C'est ça la France, la France.
Alors, pourquoi...
C'était dans quel journal ça d'ailleurs, cette photo-là?
C'était de la photo de... Ah, c'était une Voici.
L'air réjoui avec ce casque gris sur la tête.
Dans Closer.
C'était dans Closer, nous dirons Béglé. Bon, alors pourquoi revenir sur cet épisode digne d'une comédie de Gérard Houry? Eh bien, parce que le fameux scooter est en vente. C'est Paris Match qui l'a retrouvé. Et ça n'a pas été si simple, parce qu'en fait, il avait déjà changé de main, ou plus exactement de popotin, plusieurs fois. L'engin avait déjà été vendu par les domaines en 2015, ce qui signifie, soit dit en passant, qu'il était propriété de l'État. On le retrouve ensuite chez un habitant de la Vienne, puis chez un certain Patrick Sionneau, qui a eu l'idée maligne de le faire authentifier par François Hollande, ce que l'ancien président a fait à l'occasion d'une séance de dédicace.
Incroyable.
À Patrick et Manola, qui ont eu la chance d'enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur. Cordialement, François Hollande, qui ajoute « Ce scooter est le bon ». Voilà. Alors, avis aux amateurs, la mobilette des amours présidentielles est vendue aux enchères le 26 mai prochain.
Aux enchères.
Mise à prix 10 000 euros.
Non.
Ben si, mais c'est pas si cher finalement.
Il a 15 ans quand même le scooter.
Mais
hein.
C'est quoi, c'est du critère D ou...
Non, il pourra plus rouler dans Paris, c'est un critère 2. Ouais.
Ah, oui. 10 000 euros pour un fou rire national.
Oui. You can't be do what we want to do.
Voilà, effectivement. Tiens, Paris Match que j'ai entre les mains aussi. Si vous voulez tout savoir de l'affaire Puff Daddy aussi, ahurissante cette affaire, genre d'affaire que seule l'Amérique peut produire. Et revoir Marlène Jobert aussi, bah, Jérôme oui. Béglé, Marlène Jobert, qui a
magnifique.
Cette très belle phrase. Il y a dans notre époque un plaisir de la haine qui m'effraie. Je trouve que la formule est très joliment troussée. Voilà, c'est dans Paris Match. Jérôme, on va vous entendre pour le zapping dans quelques instants. Avant cela, on a Pascal Pro qui arrive dans le studio d'Europe 1. Vous le connaissez, le rendez-vous, c'est de 11h à 13h. Pascal Pro et vous prenez la parole à l'antenne d'Europe 1. Pascal, on parle de quoi aujourd'hui?
Ben, on va parler de cette violence à Montpellier, qui n'est pas une violence gratuite, si j'ai bien compris, mais qui est une violence motivée, une violence programmée.
Donc c'est cette jeune fille de 14 ans tabassée, parce que s'habillant, parce que vivant à l'européenne.
Exactement.
Par ses petits camarades de collège. Hein.
Et en fait, c'est comme toujours, dans un fait divers comme celui-là, il devient fait de société parce qu'il y a tout. D'abord, cette jeune femme est musulmane. Elle a 14 ans. Et elle s'habille, comme dit sa mère, à l'européenne. Et c'est parce qu'elle s'habille à l'européenne, en tout cas c'est le témoignage de sa mère, qu'il faudra comme toujours vérifier, valider. Il faudra être extrêmement prudent, comme toujours. Mais sa mère dit, ma fille est agressée parce que précisément, elle s'habille à l'européenne alors qu'elle-même est musulmane. Et pourquoi il y a tout dans cette affaire? Parce que cette femme a prévenu l'établissement scolaire il y a quelques jours que sa fille était harcelée. L'établissement scolaire, visiblement, n'en a pas tenu compte. Et cette jeune femme est sortie mardi à 17h sans aucune protection. Et elle a été tabassée par une jeune femme collégienne. Toujours, c'est le récit de la mère, parce que sa fille ne porte pas de voile. Et ses jours étaient en danger. Elle était dans le coma. Elle n'est plus dans le coma. Elle sera interrogée, je crois, ces prochaines heures.
Il y a quand même une inquiétude qu'elle en conserve des séquelles. Hein,
bon,
malgré tout.
Une nouvelle fois, on a tout. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui devrait être sur place, Madame Belloubet, qui n'est pas sur place. On a un établissement qui a sans doute fermé les yeux. On a les classes, effectivement, une opposition qui existe avec certains collégiens ou collégiennes qui veulent imposer un mode de vie à d'autres. Donc vous avez une séquence de la France de 2024. Et j'observe que Madame Belloubet n'est pas sur place.
On va en parler d'ailleurs. Je vous propose peut-être pour les auditeurs qui l'auraient manqué, ce témoignage. C'est un document européen. Nous l'avons
de diffusé. Charles L'Huillier. Hein, et à 9h, voilà. On l'écoutera en longueur, oui. Parce que je l'ai eu plusieurs fois, Charles L'Huillier. Je lui ai demandé d'ailleurs de faire remonter ce témoignage, oui. Qui est édifiant, qu'on entendra en longueur à 9h pour commencer l'émission. C'est un témoignage édifiant de la France d'aujourd'hui.
Vous avez tout à fait raison, Pascal. Autre sujet dans l'actualité, ben non, il s'en va, Pascal, il a envie de parler que de ça ce matin.
Non, et là, je vous assure, j'aimerais tellement parler d'autres choses, et notamment de choses un peu plus légères. Alors, il y a un nouveau record de fréquentation dans les campings.
Ah,
est-ce
oui.
que vous allez dans les campings?
Mais oui, tout à fait.
C'est vrai,
oui.
La dernière fois que vous êtes allé, c'est
l'année de l'été dernier. Et l'été d'avant.
Et ben, mais c'est vrai, vous aimez bien?
Mais oui, oui, oui.
Ah et vous, Pascal?
Jamais.
Oui. Ah oui.
Et ben, donc, je
vous inviterai, voilà, si vous
je
voulez.
Je ne vais pas vous dire autre chose, mais je n'ai jamais de... Mais ouais. C'est pas, j'ai dormi sur la plage,
ça
parfois.
Bien ça a bien changé.
Sur la route, pourquoi pas. Mais
vous voulez qu'on vous initie?
Pourquoi pas.
Mais vous savez, ça a beaucoup changé, les campings.
Je ne peux pas dire, parce que je n'y suis jamais allé, n'est-ce pas? Donc, bon. Vous êtes en train peut-être de prendre votre petit déjeuner. Cette question nous a interpellé sur le site du Figaro. À quelle fréquence peut-on s'autoriser viennoiserie et pâtisserie?
Bon, réponse pas trop souvent.
Voilà. Donc ça, c'est des questions un peu plus légères et on en a évidemment besoin.
Non, la pâtisserie n'est pas légère.
Non,
mais vous
avez
le sujet.
Vous savez qu'on met plusieurs heures. Je crois que c'est 13 heures pour digérer un croissant. Hein.
C'est simple. Un croissant, un pain au chocolat, c'est 400 calories. Vous en mangez deux, vous avez fait plus d'un repas.
Ouais.
C'est voilà. Pas possible.
Eh oui, ça, oui Pascal, repères, hein. On va vous surveiller parce qu'il y a
c'est le buffet
au repas.
C'est dans les campings qu'on en mange beaucoup peut-être.
Rendez-vous cet été, Pascal. 01 80 20 39 21, le numéro non surtaxé pour participer à Pascal Pro et vous. C'est tous les jours de 11h à 13h sur Europe 1.
Bon, et puis, donc rendez-vous à 9h pour réentendre le témoignage d'Assiba, la maman de cette jeune de 14 ans tabassée à Montpellier. C'est vrai que c'est absolument saisissant. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. On va parler ce matin des Nations Unies qui viennent de désigner le pays qui présidera l'an prochain la 69e Commission de la Condition de la Femme. Le choix vous laisse pantois.
Et oui, pour prendre la tête de cette commission supposée œuvrer pour l'égalité des sexes dans le monde, pour l'autonomisation sociale, politique et économique des femmes, l'ONU n'a pas trouvé meilleur candidat que l'Arabie Saoudite, sans doute un des pires pays de la planète où être une femme.
Mais pourquoi l'Arabie Saoudite pour cette commission-là en particulier?
Les Philippines occupaient la présidence de la commission depuis un an. Elles ont décidé d'en démissionner manifestement sous pression et de ne pas aller au terme du traditionnel mandat de 2 ans. Il n'y avait qu'un candidat de remplacement. L'Arabie Saoudite. Elle a donc été désignée à l'acclamation des 45 membres de la commission. Il n'y a eu aucune, vous entendez bien, aucune opposition. Alors que l'Afghanistan, le Pakistan ou l'Égypte qui siègent dans cette commission n'aient rien dit, soit, mais que les 3 États de l'Union européenne qui y sont présents, c'est-à-dire l'Autriche, le Danemark et l'Allemagne, ne se soient pas manifestés, c'est indigne. L'Arabie Saoudite peut donc tranquillement redorer son image au sein du Concert des Nations sous les applaudissements. Alors des ONG et des organisations de défense des droits des femmes s'insurgent, mais à l'ONU, tout le monde s'en fiche.
Ah, c'est pas la première fois que cette commission de la condition de la femme fait polémique.
Hein. Non, il y a 3 ans, les membres de la commission avaient choisi l'Iran pour présider l'organe de défense des femmes. 1 an avant la vague de répression terrible des femmes dévoilées, c'est dire si ça avait aidé le pays à progresser. Il ne faut pas attendre que le nouveau rôle de l'Arabie Saoudite dans la défense mondiale des droits des femmes change grand-chose à la vie des sujettes de Mohamed Ben Salman.
Mais lui, MBS, il est persuadé de faire avancer les droits des femmes.
Hein. Bah oui, figurez-vous que les Saoudiennes peuvent maintenant conduire une voiture. Et puis, la loi de 2022 sur leur statut personnel leur permet généreusement d'étudier, d'avoir un passeport, de voyager et de travailler sans l'autorisation d'un tuteur masculin. Alors tout ça reste totalement théorique. Le statut des femmes en Arabie Saoudite figure parmi les plus répressives du monde. Les structures sociales en font des inférieures, c'est dans la loi. Elles sont soumises au bon vouloir économique de leur père, de leur frère. De leur mari, la violence est admise comme moyen de les garder dans le droit chemin. Elles n'ont strictement aucune autonomie concernant leur vie et celle de leurs enfants. On se demande bien quel aspect du droit des femmes ce pays peut servir, pour quel aspect pardon, du droit des femmes ce pays peut servir de modèle ou d'inspiration.
Alors vous nous dites que l'ONU s'enfonce chaque jour un peu plus dans le relativisme concernant les droits de l'homme.
Bah oui, hélas, on l'a vu avec la difficulté qu'a eu le secrétaire général Guterres à condamner le pogrom du Hamas en Israël, les viols et les tortures. Il a estimé que tout ça n'était pas arrivé dans le vide. On le voit avec le silence sur le sort des femmes en Afghanistan que j'évoquais ici lundi. Les droits humains sont devenus pour l'ONU des détails avec lesquels on peut transiger. Les femmes, les fillettes en sont les premières victimes. L'arrivée de l'Arabie Saoudite à la tête de la Commission du droit des femmes est un doigt d'honneur pour les démocraties occidentales et une insulte pour nous toutes.
Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h51.
7h, 9h, Europe 1
et
matin.
Et voici le zapping politique Europe 1, signé du directeur général de la rédaction de Paris Match. Bonjour Jérôme Béglé.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Gilles Kepel était hier l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Le politologue s'inquiète de voir les Jeux Olympiques de cet été devenir une cible privilégiée pour les terroristes islamiques. Et on a profité pour montrer que la haine de l'Occident n'est pas un vain mot, mais plutôt un concept en pleine mutation.
Ce n'est plus l'affrontement Est-Ouest aujourd'hui, mais du Sud global ou des Suds, comme on dit à l'école normale supérieure, contre le Nord haï, bon, le Nord où beaucoup de gens veulent immigrer et où par ailleurs, on ne parle pas du fait que dans le Sud, vous avez des régimes illibéraux, mais Paris est l'incarnation de ce Nord, d'une certaine manière, pour ceux qui le haïssent.
Dire les choses clairement et ne pas se fier à la rumeur publique, c'est le lot de Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, hier sur BFM TV à la sortie du Conseil des ministres. Elle a tenu à tordre le cou à ceux qui annoncent qu'une hausse des impôts est absolument inéluctable.
Non, non et encore non, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Non, non et encore non, il n'y aura pas de suppression des APL. C'est que non, il ne sera pas question de toucher aux assurances-vie ou au livret A.
Cet engagement laisse sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France. Sur LCI, il a pointé du doigt les contradictions du gouvernement. Promis juré, on n'augmentera pas les impôts, mais on va quand même taxer les rentes.
On est un petit peu habitué maintenant et échaudé depuis quelques années à la pratique du en même temps. Et il me semble avoir entendu hier qu'on nous annonçait une recherche de recettes sur les rentes.
Oui.
C'est une façon de masquer certainement des hausses d'impôts.
Innovation hier à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Gabriel Attal avait décidé de répondre à toutes les questions des députés et de ne pas laisser ses ministres s'y coller. Résultat, 45 minutes d'échange assez tonique, comme celui-ci devant les caméras de LCP, après une question du député Rassemblement national Sébastien Chenu qui raille les Mozarts de la finance et la dérive des comptes publics.
C'est toujours surprenant de vous entendre parler de responsabilité budgétaire. Vous qui n'avez que le mot dépense à la bouche, vous qui proposez de rétablir la retraite à 60 ans sans expliquer comment vous le financeriez, vous qui proposez de baisser tous les taux de TVA sans aucune garantie que ça ferait baisser les prix pour les Français, vous qui proposiez 100 milliards d'euros de dépenses en plus dans la dernière campagne présidentielle sans le début d'une idée de financement, vous nous parlez de Mozart de la finance, avec vous ça serait le crépuscule des retraites et la dette enchantée.
Terminons avec le cri du cœur de Malika Sorel sur France Info, la dégradation de l'éducation nationale. La peur qui s'est emparée des professeurs inquiète au plus haut point l'essayiste qui figurera en deuxième position sur la liste du Rassemblement National aux élections européennes.
Comment se fait-il que le dernier rapport du Sénat, mars 2024, annonce que 100 000 enseignants se sentent menacés? Mais rendez-vous compte dans quel pays nous vivons. J'ai étudié en Algérie, jamais le désordre que j'observe en France ne pourrait être accepté et encore moins toléré en Algérie.
Voilà, Malika Sorel, donc, pour conclure ce zapping politique européen. Merci beaucoup, Jérôme Béglé, et votre zapping. On vous retrouve jeudi prochain. Et puis en kiosque, par image, n'oubliez pas Marlène Jobert à la une. Merci. Cette semaine. Allez, les 8h54, dans une petite demi-heure, la culture sur Europe 1, culture média présentée par Thomas Hill, avec deux invités exceptionnels aujourd'hui, surtout le second, parce que c'est un des poids lourds du polar. C'est quelqu'un d'assez rare. Bernard Minier sera votre invité.
Bernard Minier est de retour avec un nouveau roman, Les Effacés. Ça sort quand? Ça sort ce matin, le roman, il est tout chaud et on en parle sur Europe 1 avec Bernard Minier, que vous aimez lire. Et alors, c'est une bonne nouvelle pour les lecteurs, parce que si vous avez lu Lucia il y a 2 ans, eh bien, c'est le grand retour de l'enquêtrice espagnole préférée de Bernard Minier. Donc, soyez là au rendez-vous. Et puis, à 9h30, l'invité média sera Franck Melloul, le PDG de la chaîne d'information I24 News. On va évidemment parler de la couverture médiatique de la guerre en Israël.
Bon, et on joue aussi dans Culture Média.
Ah bah oui, le fameux 3 au rien pour jouer avec Thomas Hill et toute l'équipe de Culture Média. Il y a un magnifique cadeau à gagner en ce moment dans Culture Média. On vous offre 2 places pour le spectacle de votre choix. Vous allez sur le site ticketac.com, vous choisissez le spectacle que vous voulez. Alors, il y a tout, hein. Il y a le Roi Lion à Paris par exemple, spectacle d'humour, spectacle de danse, pièce de théâtre, ce que vous voulez.
Voilà, ça démarre dans une demi-heure et dans un instant, c'est l'heure des pros qui prend le relais sur Europa. Bonne journée à vous.